Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission sur Comics Office, une petite émission, un nouveau concept en réalité, et pour ce nouveau concept, je serai accompagné de Marty.
Hello tout le monde.
Et c'est une nouvelle émission donc, qui s'appelle Comics Run. Alors Comics Run, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une émission dans laquelle on se propose de revenir sur certains runs comics, donc généralement des runs terminés, hein, on va pas parler de runs en cours. De n'importe quelle époque, on s'autorise un peu tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, on va commencer très fort avec la première partie de Brand New Day. Donc c'est toute une période dans Amazing Spider-Man. Et d'ailleurs, on commence déjà par tricher, puisque le concept de l'émission à la base, c'était de parler du run d'un auteur sur un titre. Et là, on va pas parler que d'un auteur, on va parler de plusieurs auteurs, de plusieurs équipes créatives, forcément, puisque c'était une période un peu particulière.
Oui.
Ça sortait trois fois par mois.
Tout à fait, ouais.
Avec des équipes tournantes.
Pour les néophytes, rappelons, hein, on a un run, on entend par là un passage, donc une période où on a un auteur ou un dessinateur ou un auteur et dessinateur qui sont les scénaristes et artistes attitrés d'une série. Et Brand New Day, oui, c'est un peu particulier parce qu'on avait des équipes qui tournaient. Il y avait des équipes fixes, il y avait un roster fixe en fait. Il y avait 4 ou 5 scénaristes qui étaient désignés comme les scénaristes de Spider-Man et ils tournaient chaque mois en gros.
D'ailleurs, on va redéfinir un petit peu ce qui s'était passé juste avant. Alors, Brand New Day, ça commence début 2008. Et il faut savoir qu'on sortait du passage de Joe Michael Straczynski sur la franchise, sur Amazing Spider-Man. Il était arrivé en 2001, il part donc fin 2007. Enfin, il part même en claquant la porte, hein, plus ou moins, puisque on terminait son run sur One More Day, qui aura fait couler beaucoup d'encre. One More Day, qui est l'une des pires histoires de Spider-Man, je pense qu'on ait lu.
Alors moi, je ne l'ai même pas lu en entier, pour te dire.
Ah d'accord, t'as jamais lu entièrement, d'accord, bah très bien.
En fait, à l'époque, c'était chez Panini, alors c'était je crois dans les Spider-Man 101, 102.
Ouais.
Et après Civil War, Panini avait multiplié les kiosques, les hors-séries et compagnie. Et pour raison financière, j'avais décidé d'en arrêter certains. Et vu que Brand New Day, ça me plaisait pas trop, les échos que j'en avais, c'était pas top. Je me suis dit, je m'arrête après One More Day. Et puis One More Day m'a tellement saoulé la première partie que je me suis dit, tant pis, je garde mon argent. Je rachèterai un jour le numéro manquant. Et aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas acheté.
Bah, de toute façon, t'as pas loupé grand-chose. Hein. C'était franchement très très mauvais, One More Day. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du run de JMS ? Eh bien, on était juste après Civil War. Il y avait eu un très très bon arc Back in Black, j'avais beaucoup aimé, avec un Spider-Man justement très adulte qui pète les plombs, qui va à la chasse aux caïds. Et voilà, il y aura même des bruitages dans cette émission, des bruitages faits à la bouche, parce qu'on a des moyens extraordinaires aussi.
Et puis après tout ce temps, on pouvait pas vous laisser sans une petite apparition du Kaïd, évidemment.
Non mais totalement impromptu, puisque enfin voilà, mais je peux pas m'empêcher, en le nommant, de l'imiter. Donc oui, Spider-Man qui partait à la chasse au Kaïd et qui le bastonnait, puisque le Kaïd était responsable de l'état de Tante May qui s'était fait shooter par un sniper. Donc on est...
Tiré dessus, hein, le sniper lui a pas donné de la coke.
Non, non. À la base, je crois d'ailleurs dans l'histoire qu'il veut abattre Mary Jane et puis finalement bah, c'est Tante May qui est touchée. On est donc à la fin de Civil War et Peter Parker est un fugitif puisqu'il il a révélé son identité au monde mais ensuite il a changé d'avis, il a rejoint le clan de Captain America. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment une période trouble et sombre de la vie de Spider-Man, mais qui était vraiment passionnante à suivre à l'époque.
Ouais, surtout que la bannière Back in Black, elle débordait aussi sur les deux titres annexes, à savoir Sensational Spider-Man et Friendly Neighborhood Spider-Man. Et dans les deux cas, les auteurs étaient inspirés, je trouvais que ça matchait, quoi.
Ah oui, alors donc Friendly Neighborhood, d'ailleurs, c'était Peter David dessus. Peut-être qu'un jour on fera un comics run sur Peter David, sur Spider-Man. Alors, pas forcément juste sur un run, parce qu'il est passé à diverses époques, mais...
Surtout que sur Friendly Neighborhood, c'est vraiment un run inachevé. Il lance plein de pistes au début qu'on ne lui laisse pas le temps de finir, malheureusement.
Ouais, mais bon, ce sera intéressant d'en parler, parce qu'il y avait des épisodes très sympas, en tout cas, sur ce titre.
Oui.
Et Sensational Spider-Man, c'était Roberto Aguirre-Sacasa au
il me semble, ouais.
Scénario, oui. Au dessin, je sais plus.
Au scénario.
au scénario et au dessin. Donc du coup, c'était un ancien de Spawn. Je ne sais plus son nom. Voilà, je ne sais plus
C'était, il
son
y avait
nom.
Clayton Crane à ce
Il
moment-là.
y avait du Clayton Crane en alternance avec un mec qui était sur Spawn. Après Greg Capullo, je sais plus. Enfin bon, c'est pas essentiel.
Il y avait Ramon Bax, ça, tu devais penser à lui.
Non, c'était pas du Ramon Bax,
Et il y
mais
avait du
c'est pas grave.
Sunshine, enfin il y a plusieurs personnes qui sont passées dessus, ouais.
Ouais. En tout cas, c'était une période où tu fais bien de le dire. Il y avait donc trois titres réguliers mensuels Spider-Man. Le titre principal, donc, qui est resté Amazing Spider-Man, et puis deux autres titres un peu plus secondaires, on va dire, mais qui étaient très très bien. Et donc on avait trois titres par mois.
Et
Donc
même
en
un
fait.
quatrième, vu qu'il y avait Spider-Man Unlimited, il me semble, à ce moment-là.
Ouais, alors ça.
Oui, c'est
Non, je pense
anecdotique,
que
c'est anecdotique, oui.
je pense que ça n'existait même plus, Spider-Man Limited. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça n'existait plus à l'époque. Mais enfin bref, toujours est-il que, on va dire, les trois titres réguliers, mensuels, enfin voilà. Et du coup, d'ailleurs, si tu fais bien de le rappeler, puisque donc avec Brand New Day, on va garder un petit peu la même quantité en termes de nombre d'histoires tous les mois. Sauf que ce sera étalé sur le même un seul et même titre, quoi, avec donc les différents auteurs qui se relayent. Pourquoi on est arrivé à tout ça? Eh bien parce que donc, comme je l'ai dit, il y avait One More Day, le dernier arc de JMS, avec Joe Quesada largement au scénario, hein, en fait, c'est lui qui a pitché le truc et qui a un petit peu forcé JMS de l'écrire, quoi. D'ailleurs, au début, il voulait se faire enlever des crédits. Et puis finalement, bon, Quesada l'a convaincu de laisser son nom, sans doute parce que ça aurait fait mauvais genre et aussi parce que ça aurait peut-être beaucoup moins bien vendu sans le nom de JMS, quoi, qui restait quand même assez populaire à l'époque encore.
Oui, totalement, oui.
Alors pourquoi c'est si mauvais One More Day? Bah, est-ce que tu as envie d'en parler, Marty? Bah non, tu l'as pas lu en plus entièrement, donc.
Si, enfin, j'ai lu le début et j'ai vu les dernières pages qui ont été largement partagées. En gros, One More Day, c'est... Alors, One More Day, c'est la résolution de tous les problèmes un peu qu'on a édictés, puisque Spider-Man s'est démasqué. Alors, c'était super audacieux, c'était même réussi. On a vraiment eu de super moments, de super épisodes qui ont découlé de ça. Mais évidemment, ça ne peut pas durer comme statu quo. C'est pas viable sur le long terme. Pendant qu'il en cavale, Spider-Man trouve des stratagèmes. Il utilise par exemple un inducteur d'image, c'est-à-dire c'est un appareil qu'on retrouve souvent dans l'univers Marvel. C'est un appareil qui crée des illusions autour des gens pour les camoufler. Il tente plein de choses, mais bon, on sait que sur le long terme, ça ne peut pas marcher. Donc il y a ce problème-là.
Puis ça peut pas marcher effectivement par exemple sur des mutants.
Oui, bon.
Puisque les psychiques doivent bien se rendre compte que ce n'est pas la vraie apparence de la personne, enfin bref.
Oui, évidemment, c'est juste que voilà, c'est un des stratagèmes qu'il utilise,
Oui,
que Peter
ouais.
utilise à ce moment-là. Et il y a un autre souci. Enfin, il y a un autre souci. Il y a un autre souci pour Quesada, c'est le couple Peter-Mary Jane. Quesada est vraiment en guerre contre ce couple. Il n'aime pas cette relation. Relation qui, ironiquement, a été sauvée par JMS au début de son run. Vu que Peter et Mary Jane, qui étaient mariés, ben, s'étaient séparés, étaient plus ou moins séparés, ils ne savaient pas trop. Puis ils se remettent ensemble.
JMS,
Et
c'est
donc.
peut-être l'auteur qui écrit le mieux le couple Peter Parker-Mary Jane, je pense.
Ah,
Enfin,
je pense.
c'est même pas que je pense, je le dis, franchement, pour avoir lu la quasi-totalité des histoires de Spider-Man, enfin voilà, faut le dire, hein, c'est la seule série, j'ai quasiment tout lu, en tout cas tous les titres réguliers. Bah oui, c'est l'auteur qui écrit le mieux ce couple, quoi. Et
Voilà.
effectivement, oui, il a ramené Mary Jane dans le titre alors qu'elle était un petit peu, elle avait été un petit peu évincée par les auteurs précédents. Et voilà, et donc du coup, il en a refait un personnage essentiel dans le mythe de Spider-Man, quoi, clairement.
Ouais, mais sauf que Quesada, lui, il a un souci avec ce couple. Il est convaincu que les lecteurs préféreraient avoir un Peter célibataire, un peu plus jeune, un peu dans la galère, pour ben. Par nostalgie ou pour soi-disant mieux s'identifier à lui ou que sais-je encore. Et donc il veut à tout prix séparer ce couple, mais comme divorcer c'est pas bien,
C'est
Emma
vrai,
il se dit ben, on va trouver un stratagème, on va utiliser la magie. Et donc ben, Peter et Mary Jane ils vont tout simplement faire un pacte avec le diable qui inclut pour sauver la vie de Tante May de séparer leur couple. Voilà, donc moralité, ne divorcez pas mais faites des pactes avec des démons, ça vaut mieux.
oui, bah. Enfin, c'est oui, c'était totalement absurde. Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Je pense que Quesada, il fait partie de ces gens qui ont lu Spider-Man. Enfin, quand il lisait Spider-Man petit, bah, c'était une époque où Peter Parker n'était pas marié et du coup, il idéalise cette période comme beaucoup d'auteurs. Ce qu'il a connu lui en tant que jeune lecteur, il pense que c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà. Et il veut recréer cette magie, alors qu'en fait, je pense que c'est pas du tout le fait de le marier ou pas marier, c'est juste que bah voilà, c'est l'époque, c'est sa Madeleine de Proust, quoi, en fait. Et enfin, par exemple, moi j'ai commencé à lire du Spider-Man quand il était marié, il allait même devenir père de famille. Donc voilà quoi, et pourtant j'ai totalement accroché au personnage alors que j'avais pas du tout ces préoccupations quoi quand j'étais gamin.
Oui.
Donc toute cette histoire d'identification, etc., j'ai toujours trouvé que c'était du bidon quoi.
Et puis surtout, tu veux lire les aventures d'un winner. Peter Parker, il épouse un ancien mannequin qui est devenu une vedette d'Hollywood. Franchement, c'est plutôt cool pour lui en fait.
Ce truc-là, on y reviendra quand on va parler de Brand New Day justement. Mais le côté poissard de Peter Parker,
La
c'était un
Parker
truc
Luck.
qui de toute façon, ouais, la fameuse Parker Luck, c'était un truc qui de toute façon n'existait plus depuis de nombreuses années. D'ailleurs, comme tu le dis, finalement, quand on regarde la vie de Peter Parker, c'est plutôt quelqu'un qui a bien réussi, quoi. Parmi le cheptel de super-héros. Finalement, Spider-Man, c'est pas le plus malchanceux, quoi. Loin de là, loin de là. Finalement.
Oui. Ah ben on regarde Daredevil par exemple à côté. Waouh.
Le problème de Spider-Man, c'est qu'il y a le traumatisme, la mort de Gwen Stacy. C'est sûr que ça a marqué beaucoup de lecteurs, et forcément, ça a marqué le personnage. Mais au final, depuis ce drame, sa vie n'a eu de cesse de s'améliorer, quoi.
Bon, la perte de l'enfant quand même. Mais que tout le monde a gommé, que par contre
Ouais,
personne,
ouais,
dont
ouais. Mais
personne ne parle.
la perte de l'enfant, j'ai presque envie de te dire que ça a été retconné, enfin éludé.
Oui.
C'est-à-dire qu'à ce stade, on n'en parlait plus du tout, de toute façon. D'ailleurs, ça n'a jamais été référencé depuis la disparition, quoi, de cet enfant, à part dans Spider-Girl, qui était un univers parallèle. Donc voilà, quoi. C'est comme si quasiment ça n'avait jamais eu lieu, quoi, cette histoire
Oui.
d'enfant perdu. Puisque jamais Mary-Jane va dire à Peter Parker, va lui parler de cet enfant qu'elle a perdu, quoi.
Oui. Et puis quand bien même, c'est terrible comme épreuve, mais là il y peut rien, alors que la mort de Gwen, il a de quoi se sentir coupable. À tort ou à raison. Et donc voilà, tout ceci fait que y a cette idée de jeunisme fait que on va faire vraiment ce reboot, c'est un petit, enfin un reboot partiel de l'univers Marvel, de tout le pan Spider-Man. On va relancer son univers en changeant des éléments de continuité. Puisque suite au pacte avec Mephisto, et ben Peter et Mary Jane n'ont jamais été mariés.
Faut quand même préciser que ce pacte avec Mephisto, c'est le mariage contre la vie de Tante May. C'est-à-dire que pour sauver Tante May, ils acceptent de passer un deal avec Mephisto, voilà, qui leur dit simplement, votre mariage sera brisé, quoi.
Oui, en gros, parce qu'il y a une idée de cet amour est incroyable et Mephisto supporte pas ça. Ce qui d'ailleurs, en soi, c'est quelque part c'est beau, quoi. C'est un couple qui s'aime sincèrement, qui a traversé plein d'épreuves, mais qui finalement revient toujours ensemble et reste soudé. Et ils vont sacrifier cet amour pour sauver une vie, pour sauver la vie de la tante qui a 92 ans, qui meurt tous les 6 mois. Mais bon, quand même, c'est beau, mais c'est tellement mal amené et c'est tellement fait pour les mauvaises raisons, raisons qui en plus ont été rendues publiques. Donc les lecteurs qui, un tant soit peu, s'intéressent à la communication de Marvel et à tout ce qui se raconte autour, savent pourquoi ça a lieu, savent que tout le monde est contre, hein, JMS est contre, les lecteurs n'ont pas spécialement demandé ça. Et bien tout ça, ça fait que la nouvelle, je me rappelle à l'époque, sur les forums, alors je parle des forums francophone principalement, cette idée n'était pas super bien accueillie. Hein. Globalement, entre ceux qui trouvaient que l'idée était nulle, était ridicule, et plus ceux, enfin c'est souvent les mêmes d'ailleurs, qui se disaient, mais moi j'ai pas envie de voir 20, ouais, bien 20-30 ans de continuité rayé de la carte, ça passait mal quoi.
Tout à fait, ouais, bah de toute façon sur les forums américains c'était à peu près le même son de cloche, hein. les gens juraient qu'ils allaient arrêter de lire Ad Vitam Aeternam, Amazing Spider-Man. Alors, ont-ils arrêté justement? On va rapidement en parler. Moi, je te propose de toute façon de démarrer, hein, de rentrer dans le vif du sujet, de commencer à parler de ce Brand New Day.
Ce jour nouveau, pour traduire littéralement en français.
Ouais, de ce jour nouveau. Alors, pour la petite information, le dernier numéro de Amazing Spider-Man avant Brand New Day, donc le numéro 545, a vendu. Donc la dernière partie de One More Day a vendu 124 000 exemplaires. Bon, j'arrondis, hein. Je vais pas mettre les centaines.
Oui. Rappelle peut-être les dates aussi.
Donc là, on est en décembre 2007. Donc c'est vraiment la toute fin de l'année, quoi. Brand New Day va vraiment démarrer l'année 2008 aux États-Unis. Après, bon, en France, on avait toujours quasiment un an de décalage, quoi. Mais voilà, donc bon, 124 000 exemplaires sur la dernière partie de One More Day, c'était quand même pas mal, hein. Ils étaient deuxième du classement, quoi, du classement général.
Oui.
En termes de vente de comics, le premier en décembre 2007, c'est Ultimates 3, numéro 1. Le
ouais,
fameux
run
de Jeff Loeb et Ed McGuinness.
Donc, non, pour... Ultimates 3, c'est avec Joe Madureira.
Joe Madureira. Oui, en plus, je le vois sous les yeux, le dessin, et je me gourre complètement. Oui, non, mais voilà, Ultimates 3, dont nous devrions faire un comics run un jour dessus, je pense qu'il y aurait vraiment des choses à dire. Ah, mais ça pourrait être très drôle.
Ça pourrait être très drôle, oui.
Moi, franchement, par curiosité malsaine, j'ai pratiquement envie de me relire Ultimates 3 et Ultimatum. Mais bon.
Oh là là.
Mais bon.
Mais bon, on garde ça pour une autre fois.
Allez, on commence déjà, faut le dire, en 2007 avec un avant-goût, le Free Comic Book Day 2007, avec Swing Shift, qui était un one-shot gratuit, dans lequel Dan Slott et Phil Jimenez nous montraient un petit peu ce qu'allait être Brand New Day, quoi. Et donc, on avait notamment la première apparition de Override, qui est quand même l'un des nouveaux ennemis les plus pourris de cette période.
Ah oui, il peut aller directement dans la Ligue des Losers. Hein. Il est vraiment naze comme super vilain. Il y avait un look qui est mais absolument pas inspiré.
Mais ce qui est terrible, c'est que c'est vraiment le premier aperçu de Brand New Day, quoi.
Oui. Bah, autant dire qu'à l'époque, je me rappelle que, alors j'étais exclusivement lecteur VF à l'époque, mais sur les forums, on commentait évidemment ce qui se passait en VO, et forcément, attiré par ce qui se passe, j'allais y jeter un œil. Et globalement, cet épisode, enfin, unilatéralement, il était pas détesté, mais personne n'avait trouvé ça bien, tout le monde était déçu.
L'histoire, c'est quand même Peter Parker, enfin Spider-Man, qui essaye de choper un gâteau pour l'anniversaire de Tante May, quand même.
Oui.
C'est vraiment ça l'histoire principale de ce one shot.
Mais c'est pas quelque chose qui est déjà arrivé dans des épisodes précédents, ça, Peter qui porte un gâteau ou une chose de ce genre en Spider-Man et qui doit éviter de le perdre ou.
Certainement.
J'ai l'impression d'avoir vu ça aussi.
Non, mais c'est une situation hyper classique, mais justement pour quelque chose qui doit donner envie d'aller lire Brand New Day, surtout que JMS là était encore en train de bûcher sur Amazing Spider-Man et qu'on était en plein Back in Black. Enfin voilà, ça donnait pas du tout envie d'aller voir ce qu'il allait avoir ensuite, quoi. Donc Override, alors ennemi dont le pouvoir est de tuner les voitures. Ou tuner n'importe quel véhicule, quoi. C'est-à-dire de. Oui. Voilà. Il rentre dans une voiture toute pourrie et il en fait un cabriolet, quoi.
Et d'ailleurs, ils ont mis très longtemps à nous expliquer comment ça marche, il me semble, ce pouvoir. Ce pouvoir qui n'a aucun sens.
L'explication n'a aucun sens et c'est vraiment tout pourri. Enfin, c'est juste impossible, quoi.
Ça, on peut le spoiler, hein. En gros, je crois qu'il déploie des nanomachines qu'il a en lui ou un truc du genre. Enfin, qui restructure la bagnole. Enfin, c'est un truc. C'est une explication très facile et qui est très bancale.
Oui, ce qui n'a aucun sens. D'ailleurs, on en discutait entre nous. On aurait préféré même une explication type. Il fait croire aux gens que la voiture a vraiment changé alors que c'est juste. Enfin, c'est une illusion, quoi.
Oui. Voilà. Alors, ça aurait été tellement drôle qu'ils en fassent un type qui a fait un pacte avec Mephisto, qui lui a donné des pouvoirs magiques, qui lui permettent de tuner des véhicules.
Transition, justement. Dans ce one-shot, c'était surtout ça qui faisait parler. Il y a la première apparition de Jackpot. Et Jackpot,
oui.
C'est un nouveau personnage féminin qui ressemble vraiment à Mary Jane. Bon, je dis Mary Jane ou Mary Jane. Faut se décider pendant le.
Alors ça dépend si tu es nostalgique du dessin animé des années 90 ou pas.
Mary Jane, Mary Jane. Je sais pas ce qui est le plus choquant à l'audio quoi.
Bon, tu dis comme ça devient. Moi je dis Mary Jane, tu dis Mary Jane, Mary Jane. Bon.
Mary Jane.
Bah dans le dessin animé des années 90, c'était vraiment Mary Jane.
Marie-Jeanne. Ouais, mais moi ça me choquait pas à l'époque, parce que forcément.
Moi non plus.
Enfin voilà.
Ah bah moi non plus.
C'était la seule approche que j'avais de Spider-Man, donc voilà. Bon, écoute, on va dire Marie-Jeanne, hein, voilà. Donc qui ressemble vraiment à cette jackpot mystérieuse. Et d'ailleurs, on pouvait penser à l'époque que c'était Marie-Jeanne qui avait passé un pacte avec Mephisto ou que Mephisto lui avait filé des pouvoirs, des super pouvoirs, enfin qu'il y avait quelque chose, quoi.
Oui, ou que par effet papillon, voilà, s'était retrouvé là, quoi.
Ouais, ouais. Enfin, c'était très bizarre, mais encore une fois, dès le début, je me suis dit, oulala, quand même, quelle idée de merde, quoi. C'est pas possible.
Surtout que Spider-Man, alors je sais pas si c'est dès ce numéro-là ou juste ensuite, il va lui poser la question, tu serais pas mannequin ou il a lui-même un doute immédiatement, histoire que, ah lecteur, toi aussi il y a le doute comme Spider-Man.
Alors c'est pas dans ce numéro-là, me semble-t-il, ça doit être dans le premier arc vraiment centré sur ce perso, dont on va parler dans quelques minutes.
Oh là là, oh j'ai hâte.
Donc bah voilà, enfin il y avait ce swing shift hein, de Dan Slott, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui montrait un petit peu la direction dans laquelle on allait, et puis ça donnait pas du tout envie. Et arrive donc en janvier 2008 le premier arc de Brand New Day par Dan Slott et Steve McNiven. Donc déjà l'équipe donne envie. Hein. Graphiquement au début c'est très bon quoi. Les premières équipes c'est du solide. Ce premier arc était en trois parties. Et j'ai envie de te dire, bah écoute, je te donne l'opportunité de me donner tes impressions, parce que toi, faut dire aussi que tu as lu ces épisodes tout récemment, contrairement à moi qui les ai lus à l'époque.
Voilà, par rapport à toi, je n'ai jamais lu d'épisode de la période Brand New Day. Je suivais ça de loin, je suivais les discussions, je voyais les couvertures dans les sollicitations passées. J'avais des amis qui m'en parlaient et tout. Il y a notamment mon ami Ben Wave, qu'on a déjà accueilli sur Comics Office, qui est un grand fan de Spider-Man, qui m'en parlait et tout. Et clairement, il me donnait pas envie d'y retourner. Et ben, ce premier arc, c'est pas folichon. Alors faut dire que le numéro 546 qui donne le coup de départ à Brand New Day, Dan Slott était pas seul. On avait les différents acteurs en fait de cette relance, hein. Mark Guggenheim, Bob Gale et Zeb Wells, qui eux aussi introduisaient chacun dans une historiette les personnages.
Oui.
Et des personnages qu'on retrouve dans cet arc.
On va parler du backup, des backups peut-être après avoir parlé globalement de ce premier arc. Ce premier arc, par exemple, un nouvel ennemi fait son apparition.
Oui. Alors, on a Menace qui apparaît dans ce premier arc.
Non, pas du tout. On a Monsieur Négative, déjà.
Ah non, c'est Monsieur Négative.
C'est Monsieur Négative dans celui-là, ouais. Mister Négative. Oui. Qui est.
Menace apparaît pas dans celui-là à la fin ? Non, je sais pas.
Non. C'est dans le suivant.
Ah d'accord, bon. Je me suis déjà gouré, tu vois.
C'est... Enfin, si. Dans un backup, on te suggère que y a une menace, sans mauvais jeu de mots.
Oui,
on ne le voit pas, quoi.
Il y a l'ombre qui plane, il me semblait bien que
oui,
l'ombre
enfin,
plane.
Oui, enfin voilà, il y a Jackpot qui poursuit quelqu'un, et voilà.
Voilà, ouais. En fait, le souci, c'est que comme on a beaucoup d'arcs de trois épisodes comme ça qui succèdent, et que toutes ces sous-intrigues qu'on nous introduit très vite s'entremêlent, eh bien, j'ai tendance déjà à confondre les arcs, tu vois, tellement on a des intrigues à rallonge, comme celle de Monsieur Négative qui commence dans cet arc-là, comme la course à la mairie, mais dont on se fout, mais on se fout royalement.
Oui.
Clairement, on s'en fout. On a la nouvelle. On lance des pseudo-intrigues romantiques qui aboutissent pas vraiment dès cet arc. Enfin, c'est honnêtement, moi, ce premier arc m'a refroidi. Je n'étais mais pas emballé du tout, mais alors absolument pas du tout.
Oui, il est vraiment pas passionnant. Clairement, ça démarre très très mollement. Il y a un truc très important qu'on n'a pas mentionné au final, qui est même essentiel. Alors là, qui est publié en VF tout au début, alors que en VO c'était à la fin du premier numéro, enfin du numéro 546. C'est cette double page qui t'explique le nouveau statu quo à toi. Ancien lecteur, c'est ça le truc. C'est déjà là où ça démarre très très mal Brand New Day. C'est-à-dire que, encore qu'on explique au nouveau lecteur le statu quo, c'est tout à fait normal. Mais qu'on explique aux anciens lecteurs ce qu'est le nouveau statu quo, ça prouve qu'il y a vraiment un très très gros problème. Et donc dans ce nouveau statu quo, bah, on t'explique que, par exemple, Harry Osborn est de retour. Voilà. On sait pas comment, on te dit qu'on te l'expliquera ultérieurement.
Ouais.
Très bien. On te dit aussi que l'identité secrète de Peter Parker est redevenue secrète. Alors on comprend pas trop par quel miracle, puisqu'il y a eu des enregistrements, il y a eu des journaux, il y a eu des articles, etc.
Parce qu'en plus, il y a même la blague, c'est qu'on nous dit texto que les gens savent que Spider-Man a enlevé son masque, mais ils ne se rappellent plus de quelle tête avait le bonhomme.
Voilà.
C'est là où on se dit, mais on se fout de notre gueule.
Donc ça, c'est vraiment les deux plus gros changements, peut-être. On te dit aussi que, grosso modo, il a plus ses pouvoirs mystiques. Alors ça, c'est pareil, ça c'est un truc même qui sera jamais vraiment totalement expliqué. Même pas du tout.
Oui, ces pouvoirs dont tout le monde se foutait aussi, qu'il avait eu après l'arc de Spectacular vaguement lié à Disassembled, où d'un coup il pouvait tirer des dards avec son... il avait aussi la toile organique, enfin,
ah,
tout ça a disparu.
Et puis aussi ce qu'il avait hérité de The Other, quoi, l'arc de
oui,
GMS.
Voilà, ouais. Oui, voilà, ouais.
Enfin bref, c'était, c'était déjà c'était compliqué, ça partait un peu dans tous les sens.
D'ailleurs, chers auditeurs, vous voyez vous-même hein, qu'on s'embrouille nous-mêmes parce qu'il y a eu tellement de choses comme ça qui ont été rajoutées et qui sont balayées d'un seul coup que c'est compliqué de tout démêler.
Oui. Et puis aussi, un dernier point qui a son importance, Peter Parker donc, se retrouve à nouveau, comme tu le disais tout à l'heure, sans le sou, et il repart vivre chez sa tante, quoi, comme au début de ses aventures. Sauf que on imagine qu'il a la trentaine bien, bien tassée, quoi.
Oui, voilà, ouais, parce que les années ont quand même continué à s'écouler.
Bah oui.
D'ailleurs, Tante May, il y a peut-être un truc que j'aime bien par rapport à elle, c'est qu'on nous montre qu'elle travaille maintenant dans le FIST, ce qui est traduit, je sais plus comment, en français, ils lui ont donné un autre nom. C'est un centre pour personnes, enfin, pour SDF, quoi, c'est un peu les Restos du Cœur.
Je crois que ça se prononce FEST, du coup.
Le FEST, oui, je sais plus, F-E-A-S-T.
Ouais, je crois que ça se prononce, sinon ça fait point, FIST.
Oui, voilà, ouais. Qui d'ailleurs, en français, au début, c'est... Alors d'ailleurs, il y a un très gros problème dans les premiers numéros VF de Panini, parce que il y a des pseudonymes comme ça qui changent. Le Fest devient autre chose ensuite, le personnage de Freak est d'abord appelé Monstre, puis redevient Freak.
C'est marrant, parce que j'ai relu, hein, j'ai relu justement les épisodes en VF, et je t'avoue que j'ai pas fait tellement gaffe à ce genre de truc. Mais c'est pour ça que, comme toi, c'était ta première lecture, t'as sans doute été beaucoup plus attentif à tout ça, alors que moi, qui connaissais déjà les histoires, je t'avoue que je lisais ça un petit peu en pilote automatique, quoi, puisque je savais déjà ce qui allait se produire, donc j'étais beaucoup moins attentif que tu n'as dû l'être durant ta lecture.
Oui, forcément, je suis un peu plus dedans, je fais un peu plus attention, et puis moi, toutes ces histoires de transcription VOVF, c'est toujours un sujet qui m'intéresse. Il y a aussi Monsieur Négatif, qui après coup sera de nouveau appelé, je crois, Mister Négative. Enfin, on voit que Panini eux-mêmes, ils savent pas trop sur quel pied danser pour certaines traductions.
Ouais.
Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce premier arc, qui clairement m'emballe pas du tout.
Sur ce premier arc, Mister Négative, précisons quand même que c'était une sorte de mafieux. Voilà, c'est un nouveau personnage à la Hammerhead, ou façon Kaïd, ou le Hibou, enfin voilà.
Voilà, un chef de gang qui veut devenir Kaïd à la place du Kaïd.
C'est ça. Et il se trouve que, on va le dire maintenant, hein, parce que alors je sais plus dans quel arc on le découvre, mais bon, on s'en fiche, puisque là on va traiter de tout globalement. On découvre que Martin Lee est en fait Monsieur Négatif. Et Martin Lee, c'est l'employeur de Tante May, quoi. C'est celui qui dirige le centre pour sans-abri dans lequel travaille Tante May. Comme de par hasard. Ah bah tiens, ah bah ça tombe bien.
Je dirais que le centre est la couverture de Martin Lee.
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En l'occurrence c'est bien vrai.
Non, je suis juste fier de ma connerie, c'est tout.
Dans ce premier arc, les faits marquants, c'est que Jameson fait une attaque.
Oui.
Quand même.
À cause de Peter.
Cause de Peter, ouais, qui lui demande.
Si on veut, enfin, lui considère que c'est Peter le responsable, c'est pas vraiment Peter, mais.
Oui, enfin voilà, ça c'est vraiment c'est on va dire c'est vraiment un détail dans cette histoire, puisque ce qui est surtout important, c'est que donc il fait une attaque et à cause de cette attaque, sa femme va vendre en fait ses parts du Daily Bugle donc à quelqu'un d'autre, hein, Dexter Bennett, qui est aussi un nouveau perso et qui va s'emparer de la direction du Daily Bugle.
Dexter Bennett, un personnage très bizarrement écrit, parce que j'ai vraiment eu l'impression que les auteurs savaient pas trop comment l'aborder. On découvrira assez rapidement qu'il a une vision très personnelle du journalisme. En gros, il est très subjectif, il n'hésite pas à tourner les images et les informations dans le sens qui lui plaise.
Oui.
Il est assez odieux avec les autres personnes. Hein. Il fait quand même une sortie un peu raciste à Robbie lorsqu'il le rencontre pour la première fois. Il ne retient jamais le nom des employés sauf lorsqu'il les vire. Et au début, on ne sait pas trop.
Ça,
On
c'est le
le
gag.
décrit un peu.
Ça, c'est le running gag, quoi.
Oui, le ring gag, c'est Peter Palmer. Alors là, en plus, clin d'œil à un très vieil épisode de Spider-Man. C'est Peter Parker Peterson. Enfin, il se trompe tout le temps, sauf une fois qu'il le vire. Et en fait, au début, il nous est un peu présenté comme un espèce d'original. Et au final, on se rend compte que c'est un peu un salaud quand même, quoi. Plus le temps passe, et moins on le trouve sympathique, Dexter Bennett.
Oui, et on comprend vite que c'est quelqu'un qui vient de la presse à scandale et qu'il va faire du Daily Bugle un torchon, quoi.
Oui.
Il nous ferait presque regretter Jonah Jameson, quoi, finalement.
On en est au point où il décrète aussi que Spider-Man est une menace, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que Jameson critique même la façon dont Bennett tourne le fait que Spider-Man est une menace, quoi. Jameson est même outré de voir jusqu'où peut aller Bennett.
Enfin, cela dit, il le critiquerait même s'il disait n'importe quoi, en
Oui.
fait.
Oui, puis c'est hypocrite de la part d'un type comme Jameson qui a employé des super vilains, mais.
Mais bon, ça fait partie des personnages, on va dire, un peu importants introduits lors de ce premier arc. Qu'est-ce qui se passe d'autre
Bah, on découvre parmi les personnages féminins, on découvre Carly et Lily.
Oui. Alors, Carly Cooper, peut-être potentielle petite amie de Peter Parker, bien que le personnage, franchement, pendant très longtemps, n'ait pas du tout développé, ou quasiment pas. On sait juste qu'elle bosse à la criminelle, quoi, voilà, c'est tout.
Bon, en gros, il y a un espèce de pseudo-triangle amoureux qui se crée entre elle, Peter et Vince Gonzalez, un flic qu'on va suivre. On va le suivre régulièrement. Vince, qui est un flic qui, je crois, vient d'arriver à New York et déteste Spider-Man. Et il va être en partenariat avec l'officier O'Neill, qui lui est un flic vieux de la veille, qui adore Spider-Man, qui lui dit, tu verras, avec le temps, tu vas apprécier Spider-Man. Et on a une espèce de triangle amoureux très mal fait entre eux, puisque Carly aime Peter, est intéressée par Peter. Peter, lui, il la friendzone en permanence. Vince est attiré par Carly, puis au final, Carly va finir par se rapprocher de Vince. Enfin, c'est vraiment ni fait ni à faire. J'ai l'impression de voir les scénaristes renoncer à ce triangle amoureux. J'ai l'impression qu'ils ont très vite fait le tour et qu'ils l'évacuent.
Oui, non, non, mais très, très, très franchement, tu verras comment ça évolue, mais c'est surtout que, typiquement, c'est le genre d'intrigue. On sentait qu'ils n'avaient pas vraiment envie d'écrire ça, et du coup, c'est juste en filigrane, mais en fait, c'est jamais vraiment
Ouais.
développé, quoi. C'est jamais vraiment
Oui, voilà.
développé. Dans ce premier arc, il y a aussi un truc assez important, c'est le vol de l'équipement de Spider-Man, et le fait qu'on commence à trouver des traceurs. Ce qu'utilise Spider-Man pour tracer justement ses ennemis sur des cadavres, quoi. Et donc commence un petit peu une espèce de traque au Spider-Tracer Killer. Alors je sais plus comment ils l'ont appelé, le tueur au traceur, je crois,
Le
en
tueur au
VF.
traceur, il me semble, en VF.
Voilà, et puis donc forcément, Spider-Man à nouveau est accusé par la police et par tout le monde d'être probablement un meurtrier. Voilà, ça aussi c'est une intrigue qui va durer longtemps, peut-être un peu trop.
Sans doute parce que, en gros, aujourd'hui, on va faire, je crois, les 30 premiers épisodes, quelque chose comme ça, et on y est encore, quoi.
Oui. Et
C'est long.
tu parlais aussi de Lily Hollister, je crois qu'elle s'appelle,
Oui, Lily Hollister, oui.
qui est la copine d'Harry Osborn, voilà. Grosso modo, hein, Harry Osborn est revenu, donc
Son mariage avec Liz
Liz Allen,
s'est
ouais.
soldé par un divorce. Et en rigolant, il plaisante sur le fait qu'il aurait épousé deux ou trois femmes en Europe. Et visiblement, c'est vrai, quoi. Pour vous dire vraiment le niveau avec lequel Harry est écrit, c'est un peu pathétique.
Oui. Alors, comme beaucoup d'intrigues, ça va un petit peu s'améliorer au fil du temps, mais c'est vrai qu'au début, ça fait très très peur, quoi. Surtout quand on lit ce premier arc, on se dit, oh là là là, franchement, où ça va? Il n'y a aucune finesse, c'est lourdingue, quoi. C'est vraiment très lourdingue. Tout est écrit dans la facilité.
Avec un faux back to basic, avec le Bugle qui est de nouveau contre Peter, Harry qui a racheté le Coffee Bean, donc le café où Peter et ses amis se réunissaient à la grande époque de Spider-Man lorsqu'ils étaient jeunes étudiants. Enfin, on a vraiment ce côté pseudo-nostalgique qu'on nous infuse de force.
Alors, est-ce qu'il est dit qu'il a racheté cet endroit?
Oui.
Ah, c'est dit, oh, j'ai complètement oublié alors.
Il a racheté le Coffee Bean et il va faire un espèce de Starbucks de ça, ouais.
Il y a un truc aussi qui m'a agacé dans Brand New Day. Vin Gonzalez et O'Neill, je sais plus comment ils s'appellent,
Si c'est O'Neill, ouais.
les deux flics, quoi, qu'on voit très régulièrement dans les premiers arcs, dans les premiers épisodes de Brand New Day, sont constamment là dès qu'il se passe un truc avec Spider-Man. C'est-à-dire que de tout New York, il y a deux flics, c'est
Oui.
eux, et ils sont là forcément dès qu'il se passe un truc, tout le temps. Je me souviens d'un épisode, je crois que c'est l'épisode avec Override, quand on revoit Override, où il y a carrément Vin Gonzalez qui sort d'un stade avec son père, et ah bah comme par hasard, tiens, il y a Spider-Man qui
Oui.
passe devant avec,
Oui,
avec
oui,
Override,
oui.
quoi. Mais je veux dire, New York, c'est quand même grand, il y a quand même pas mal de temps.
Oui.
Voilà.
C'est très grand, oui.
Et les deux seuls flics, on a l'impression que les deux seuls flics de la place, c'est eux. Et ils sont toujours mêlés à tout ce qui se passe, quoi, avec Spider-Man.
Ouais. C'est forcé, c'est vraiment. Mais je reconnais un truc quand même, c'est que dès là, on a vraiment fait un peu le tour du casting gentil, entre guillemets, qui gravite autour de Peter. Il y a quand même une volonté de rebâtir un supporting cast autour de lui et de lancer plein de sous-intrigues au long cours. Ce qui pourrait être cool si c'était bien fait. Sauf que ben c'est souvent ça manque d'imagination et ou c'est très mal exécuté.
Alors, le problème de Brand New Day, c'est aussi, et on va le voir avec ce deuxième arc, c'est que, comme tu dis, il crée des nouveaux persos, par exemple Dexter Bennett qui remplace Jonah Jameson, et ça nous fait regretter au bout de deux épisodes Jonah Jameson, quoi, finalement.
Et encore, tu vois, si Bennett était mieux écrit, ça irait.
C'est pas le pire, mais comme tu dis, il y a plein de personnages qui sont McCarty Cooper, concrètement, voilà, quoi, c'est une sous Mary Jane.
Ou une sous Debra Whitman.
Ou une sous Debra Whitman, ouais, enfin voilà, mais en tout cas, c'est une potentielle intrigue amoureuse qui reste totalement inintéressante, quoi, au début.
Voilà, ouais, et puis qui aboutit pas trop.
Et pareil avec les super-vilains. Pareil avec les super-vilains, c'est
Oui.
des ersatz de plein de choses.
Oh là là.
Précision aussi, le premier numéro de Brand New Day vend à 127 000 exemplaires, plus de 127 000 exemplaires. Il se hausse à la seconde place du classement, donc cette fois-ci, c'est derrière le Hulk de Jeff Loeb et Ed McGuinness. Tiens, c'est marrant parce que
Voilà.
là cette fois-ci, j'ai les bons, la bonne équipe.
Tu as dû inverser avant, c'est tout.
Mais non, parce que c'était pas du tout sur la même page, donc c'est
Oh,
vraiment le
j'essaie de
hasard.
te
C'est vraiment
sauver.
le
Oh
hasard.
là
Mais non, mais c'est
là.
encore plus beau, quoi. C'est encore plus beau. Comme de par hasard, Balthazar, les numéros suivants, donc les deux suivants, hein, le même mois, en ce mois de janvier 2008, donc les 547 et 548, vendent déjà beaucoup moins, puisqu'on tombe à 101 000 exemplaires, puis 97 000.
Ouais, c'est la dégringolade.
Enfin, en tout cas, voilà, passé l'effet surprise du premier numéro et l'effet curiosité plutôt, je devrais dire, on arrive déjà autour de la barre des 100 000, voire des 80 000, des 90 000, dès le
Alors oui,
troisième
je dis
numéro.
dégringolade, tu fais bien de me tempérer. Ça reste de très bons chiffres de vente, mais pour un événement qui est lancé sur un même mois, c'est décevant. Et en même temps, cette stratégie de faire 3 fois par mois un même titre, c'est vraiment risqué. Déjà, on le voit avec DC qui, depuis quelques années, fait eux ont fait le pari de sortir 2 fois par mois leur gros titre. Et ben, c'est un peu compliqué, quoi, de maintenir les lecteurs lorsqu'on fait ça. Tout en maintenant un nombre de titres élevé de manière générale dans ce qu'on propose, quoi. Et là, de lancer 3 titres dans le mois, c'était risqué. Parce que avant, Spider-Man, ça faisait très longtemps qu'il avait 3 voire 4 titres réguliers par mois, mais c'était avec des auteurs différents et des dessinateurs différents, avec des tons différents. Parfois les titres étaient liés, parfois pas. Là, si vous voulez suivre Spider-Man, vous êtes obligé d'acheter les 3 numéros. C'est un peu. Et certains, je me rappelle, ça aussi on l'a pas dit avant, mais certains lecteurs l'ont un peu mal vécu à l'époque en disant, mais c'est une technique pour nous soutirer notre argent. C'est un peu faire du forcing.
Avec le planning, en fait, on voyait clairement les thèmes des différents arcs, en tout cas des premiers arcs qu'on allait avoir. Et
Oui.
peut-être que certains ont même sélectionné en fonction des auteurs, des dessinateurs qui les intéressaient le plus. Donc,
Ah
enfin
bah
voilà.
j'espère pour eux, oui.
D'un côté, tu pouvais très bien te dire, bon bah finalement ce mois-ci j'achète pas, le mois prochain je le prendrai parce que l'équipe créative je préfère, et puis après j'attends qu'elle revienne dessus. Enfin,
Oui.
c'est un système qui peut être rapidement très casse-gueule, quoi, finalement, ce système.
Bah, d'un côté, chacun, il y a certains qui vont faire vraiment, genre Zeb Wells, des arcs déconnectés. D'autres, comme Slott ou Guggenheim, vont reprendre les vilains qui les intéressent dans leur arc. Mais t'as quand même les sous-intrigues qui continuent derrière. Donc, ça reste un peu, ça casse un petit peu quand même si tu sélectionnes les arcs, je trouve.
Alors, les sous-intrigues restent derrière, ce qui est une bonne chose, mais le problème, c'est que comme ils sont quatre équipes créatives différentes, elles traînent en longueur de manière hallucinante, quoi. D'ailleurs, cette histoire d'élection n'est toujours pas terminée, d'ailleurs,
On n'en
dans
a
ce
même
que tu
pas
lisais.
parlé, tellement on s'en fout
Tu l'as suggéré tout à l'heure, enfin, tu l'as évoqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'élection du nouveau maire de New York, avec donc le père de Lily Hollister qui se présente. qui est plutôt démocrate.
Bah, qui remplace un candidat qui est assassiné, en fait.
Oui, voilà, qui est le démocrate de l'histoire, le gentil, on va dire. Parce que
Oui.
les démocrates, c'est les gentils, et les républicains, c'est les méchants. Quand on est américain, quand on est scénariste de comics, c'est toujours comme ça que ça se passe.
Alors, ils ont un président qui leur donne pas tort en ce moment.
Non, mais d'accord, mais enfin, tu vois ce que je veux dire,
Oui,
quoi.
oui.
C'est...
Oui.
Au-delà de ça, ça fait toujours un peu cliché. Moi, ça me fait toujours sourire.
Oui, c'est vrai que c'est un peu cliché.
Ensuite, oui, côté républicain, donc on a un gars qui, on s'en rend compte quelques arcs plus loin, est assez trouble et
Oui.
visiblement est de mèche avec Norman Osborn.
Voilà, et en plus, c'est le candidat préféré de Dexter Bennett qui veut lui faire sa pub.
Oui. Mais alors donc cette intrigue dont on se fout, puisque finalement ces deux personnages envers lesquels on n'a aucun attachement, quoi. C'est vraiment des deux personnages hyper secondaires, qu'on voit d'ailleurs très très peu, hein, au final, l'un et l'autre.
Oui. Et c'est vraiment dommage que au moins l'un des deux personnages soit pas ben, Jameson ou le Caïd ou quelqu'un comme ça. C'est qu'on nous met un nouveau chef du crime avec Mister Négative, on nous met des gens qui veulent avoir le pouvoir, que des rôles qui auraient pu être remplis par des personnages qu'on connaît déjà, ou au moins en partie.
Quitte à y aller à fond les ballons,
Voilà.
on a Norman Osborn à l'époque qui est dans les petits papiers du gouvernement parce qu'il est le chef des Thunderbolts. Alors, bon, peut-être que ça aurait fait trop pour le personnage, mais pourquoi ne se serait-il pas lancé dans la course à la mairie de New York pendant qu'on y est? T'aurais eu un duel Norman Osborn-J. Jonah Jameson, là ça aurait pu durer 6 mois, 1 an, ou plus. Au moins ça aurait été intéressant, quoi, en tant que lecteur, ça nous aurait parlé, quoi.
Voilà, ouais, ou alors un ancien super vilain sponsorisé par Osborn qui tire les ficelles dans l'ombre ou quelque chose comme
Oui,
ça, quoi.
absolument,
Ça
absolument.
aurait été beaucoup plus intéressant, ouais.
Parce que là, c'est franchement une intrigue qui dure infiniment longtemps
Oui.
et qui est juste hyper ennuyeuse, quoi. C'est ennuyante, ennuyeuse, oh, je ne sais plus.
Parce qu'en plus, si tu regardes finalement le cast, il reste qui des persos qu'on connaît? Il y a Tante May qu'on voit très peu, il y a Robbie qu'on voit un petit peu, mais c'est plus un mentor qu'un ami pour Peter, il y a Betty Brant qu'on voit un petit peu, qui apparaît de temps en temps, et c'est tout.
Vraiment, les anciens, on les voit quasiment pas. Finalement, celui qu'on voit le plus parmi les anciens personnages, c'est Harry Osborn, du coup.
Ouais. Et lui aussi, il faut un moment avant d'en faire quelque chose. Avant que son père réapparaisse, il n'en fait vraiment rien d'Harry
Oui,
Osborn. Enfin, personne n'en fait rien.
non, non, au début, il fait vraiment de la figuration. Enfin, au début, ils font tous de la figuration, sauf les nouveaux persos, mais dont on se rend vite compte qu'ils ne sont pas aussi passionnants que les anciens. C'est un petit peu le drame des débuts de Brand New Day. Et on arrive à ce deuxième arc de Mark Guggenheim et Salvador Larroca. Déjà, est-ce que graphiquement, toi, ça t'a choqué? Enfin, pas choqué, mais est-ce que ça t'a marqué?
Non, et puis Salvador Larroca, j'aime pas, donc.
Parce que là, c'est du Salvador Larroca, mais qui avait un petit peu changé son style, je trouve. Avec même peut-être des photos d'immeubles, comment dire.
Il avait tracé.
Ouais,
Il avait fait du
peut-être, ouais.
tracing, c'est-à-dire décalqué, ouais.
Sans doute parce que c'est quasiment du photoréalisme sur certains trucs, mais avec des personnages qui ont des gueules vraiment hyper mal dessinées, quoi. Donc
Ouais.
le contraste est assez terrible.
Ben là, en fait, Salvador Larroca, à cette époque, il est en train de finir sa mutation vers le style qu'on lui connaît encore aujourd'hui.
Ouais. Mark Guggenheim, donc au scénario pour ce deuxième arc, qui va faire la part belle aux personnages de Jackpot et de Menace.
Ouais.
Bah pareil, écoute, dis-moi ce que t'en as pensé, quoi, brièvement, de second arc.
C'est terrible, hein, j'ai lu ça il y a 2 semaines. Honnêtement, cet arc-là, je ne m'en rappelle quasiment pas. Je sais que Menace tue le candidat qui va être remplacé par le père de Lily
Oui.
Hollister. Et je ne me. Mais c'est terrible, hein, je ne me rappelle de quasiment rien.
On sent que Menace est intéressé par ces fameuses élections qui n'intéressent que lui, hein, puisque le lecteur, lui, ça n'intéresse pas du tout.
Les personnages aussi s'en foutent, hein. Peter n'a pas spécialement l'air d'avoir envie d'aller voter.
Oui, non, franchement, c'est un peu traité par-dessus la jambe. Menace, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une sorte de bouffon vert. Voilà, franchement, il a le look, la tête d'un énième bouffon ou un super bouffon.
D'ailleurs, il est traité de bouffon gris et Peter laisse entendre que le bouffon gris, donc le fils de Norman Osborn et de Gwen Stacy, pourrait encore exister.
Oui, c'est un petit clin d'œil, quoi. Là, c'est vraiment un petit clin d'œil parce que ça va parler uniquement à ceux qui ont lu le run de JMS, mais sinon.
Ouais, mais en fait, je dis ça parce qu'à cette époque-là, on était tous en train de guetter la moindre allusion aux éléments problématiques qui auraient pu être effacés. Et il y avait ce story arc que les lecteurs détestaient en général. et les gens se sont dit « Ah, mais en fait, ils assument toujours ce story arc. »
Oui, non, mais de toute façon, rien n'est censé avoir été effacé, officiellement.
En fait, à ce niveau-là, on en est à un niveau où, en gros, tant qu'on nous a pas dit que ça n'existe plus, ça existe peut-être toujours.
Et d'ailleurs, ça existe encore. Enfin, on reverra ce personnage.
Oui.
Pas vraiment directement dans Brand New Day, mais dans une mini-série. Voilà.
Ouais. En tout cas, voilà, moi, l'arc-là, vraiment, m'a pas passionné du tout. Je refeuillette, là, mais effectivement, qu'est-ce que c'est moche. Oh là là.
Et moi, j'ai trouvé que Guggenheim essayait de nous faire une intrigue vraiment à la Hobgoblin, à la Super Bouffon. Parce qu'au fait, dans cet arc, il essaye de faire du Roger Stern sans en avoir vraiment le talent. Et il égrène un certain nombre de suspects, en fait.
Totalement, ouais.
C'est-à-dire, il y a une espèce de flic ripou, enfin, un flic, on ne sait pas s'il est ripou d'ailleurs, mais Spider-Man va se renseigner auprès d'un flic. On voit divers personnages, il y a une espèce de conseiller en assurance, enfin, je ne sais plus ce que c'est, qu'on voit à un moment. Il y a des personnages d'ailleurs qu'on ne voit que là, et on se dit, mais peut-être,
oui.
Peut-être sont-ils liés à l'intrigue de menace, et peut-être sont-ils des suspects potentiels, quoi.
Ouais. Où on a aussi le personnage de Blue Shield qui vient épauler Jackpot. Je crois qu'on l'a pas dit, mais Jackpot est en fait une nouvelle super-héroïne à New York qui a été recensée par le programme de recensement des super-héros qui est né après Civil War.
Oui.
On nous introduit ce personnage-là, on se dit « Ah ben tiens, ça va sans doute être lui aussi un personnage secondaire ou tertiaire. » Et bon, ben, on le voit plus ensuite.
Ce qui est marrant, c'est que les arcs de Brand New Day avancent très lentement, du coup. Avec ce rythme d'intrigue qui court sur des mois. Par contre, l'univers Marvel, lui, avance beaucoup plus rapidement. Et cette intrigue comme quoi Spider-Man est poursuivi parce qu'il n'a pas été recensé, ce qui est marrant, c'est que trois arcs plus loin, on n'entend plus parler, on n'entendra plus jamais parler.
Oui.
Ça disparaît totalement du jour au lendemain, quoi.
C'est un peu mis sous le tapis. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé avant, mais à ce moment-là, Spider-Man fait partie des New Avengers, où il est en cavale avec eux, et ça colle très mal avec Brand New Day. Je me demande même s'il ne garde pas le costume noir dans les New Avengers encore quelques temps. Faudrait vérifier.
De mémoire, non. Je crois qu'il ne le garde pas. Par contre, c'est sûr qu'il y aura très très peu d'évocations de sa vie, on va dire, de super-héros avec les New Avengers à cette période, quoi.
Alors, il me semble qu'ils font des blagues sur le fait qu'ils se méfient de lui par rapport à la psychose sur les Skrulls parce qu'ils ne connaissent plus son identité secrète. Ils font comme s'ils ne l'ont jamais connu, ce qui est très bizarre si on suit la série New Avengers depuis le début. Mmh. Mais je me rappelle que c'était quand même un peu. Ça avait l'air un peu compliqué à concilier, quoi. Ça cavale avec les New Avengers qui, vraiment, à cette époque-là, se planquent. Ils ne doivent pas se faire repérer. Ils sont recherchés activement par les Thunderbolts ou les Avengers de Captain Marvel et Iron Man. Enfin, Carol Danvers, plutôt. Elle n'est pas encore Captain Marvel, il me semble. Et voilà. Enfin, c'est. Niveau continuité, c'est. D'ailleurs, il me semble aussi qu'au début de Brand New Day, ça fait plusieurs mois que Spider-Man n'a pas été vu.
Oui. À chaque relaunch, on te dit. Plusieurs mois, plusieurs semaines sont passées. Ce qui est,
oui,
ce qui
voilà,
correspond
ouais.
Pas du tout par rapport aux autres séries où tu le vois toujours.
Oui,
enfin bref, tu te demandes comment
oui,
tout,
voilà,
peut,
ouais.
Tout peut fonctionner, quoi.
Bah ça ne fonctionne pas, mais bon, passons. Enfin, passons. En même temps, vu l'arc suivant, on va vite passer dessus.
Ouais, alors juste pour info, ce second arc de Brand New Day, le premier numéro de l'arc a vendu 101 000 exemplaires et ensuite. Passe à 90 000, puis à 88 000 pour la troisième partie de cet arc, quoi.
Ouais.
Donc on voit que les gens reviennent parfois pour le premier numéro de l'arc, et après repartent, quoi.
Oui.
C'était l'un des risques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont juste essayer le premier numéro de chaque arc, et finalement, bah, qui vont pas prendre tous les numéros, quoi.
Tout à fait, ouais. On a vraiment l'impression, un peu là, d'avoir des mini-séries chaque mois.
Troisième arc de Brand New Day, Bob Gale, Phil Jimenez, avec la première apparition de ce méchant aussi extraordinaire qui s'appelle Freak.
Voilà, tout à fait, un SDF qui est apparu au tout début de Brand New Day, qui est dans le centre de Tante May.
Qui est un drogué, voilà, qui va sniffer
oui, voilà, ouais.
Une espèce de...
Des produits du Dr. Connors.
Voilà, une espèce de produit du Dr. Connors, donc l'ex-lézard, bien sûr.
Oui.
Et qui va se transformer en une sorte de monstre dégueulasse à la Resident Evil, quoi. Vraiment une Une créature qui n'arrête pas de muter d'ailleurs, de s'adapter à son environnement, soi-disant. Enfin voilà, c'est ça son pouvoir, quoi.
Oui, voilà. Ouais. Quand on le tue, il est censé, il part dans un cocon, il est censé revenir dans une nouvelle forme qui ne peut plus être tuée parce qu'il avait blessé avant. Enfin, un truc vu et revu qui, pareil, fonctionne très mal. Et autant dire, cet arc est vraiment.
C'est le pire des quatre premiers, c'est le pire, je trouve.
Ouais, sûrement, ouais. C'est pas terrible. Je retiendrai juste les scènes avec J. Jonah Jameson. De manière générale, la chose qui me plaît peut-être le plus sur toute cette première partie de Brand New Day, et qui est aussi la seule sous-intrigue que chaque scénariste maîtrise à peu près, c'est J. Jonah Jameson qui se remet tant bien que mal de la vente de son journal, et qui pète des plombs systématiquement, et qui me fait sincèrement rigoler. J'ai vraiment éclaté de rire.
Et qui rechute, ouais, qui rechute à chaque fois, quoi.
Oui, voilà, ouais.
D'ailleurs, il y a une scène qui fait écho au premier arc, où on voit Spider-Man obligé de faire du bouche à bouche à J. Jonah Jameson,
Oui.
alors que dans le premier arc, il y avait un épisode qui se terminait avec.
C'est Peter qui fait le
Ouais,
bouche à bouche,
voilà,
oui.
c'est ça.
Voilà, ouais, parce que en fait Peter provoque une crise cardiaque et ensuite Spider-Man en provoque aussi une. Enfin, c'est un peu lourd. C'est pas très rigolo dit comme ça, mais c'est présenté comme un running gag.
Oui, franchement, là, c'est vraiment fait de manière humoristique.
Puis on aura une scène de yoga plus tard de Jonah Jameson qui fait du yoga qui est assez savoureuse.
Ouais, moi, ce que je retiendrai cet arc, c'est peut-être encore l'aspect graphique. Voilà, Phil Jimenez, franchement, il fait le taf, quoi.
Oui,
C'est beau.
il fait
C'est
le
beau.
boulot,
Par
ouais.
contre, la narration de Bob Gale est juste catastrophique. Pour moi, c'est vraiment le pire des quatre auteurs initiaux. C'est vraiment laborieux, quoi, son style d'écriture. On a l'impression que c'est un comics écrit dans les années 60, quoi.
En même temps, Bob Gale, c'est de tous ces scénaristes, c'est le moins habitué à l'exercice du comics
C'est ça.
aussi.
Mais c'est aussi l'un des pères de Retour vers le futur.
Voilà, oui, il est connu pour Retour vers le futur. Pour ça, on le vénérera à jamais, mais ça montre que ben, scénariste de film et scénariste de comics, c'est deux
Ah
métiers
oui,
différents.
voilà.
Et ça montre aussi qu'on ne peut pas viser juste à chaque fois. Hein. Il avait fait un arc sur Daredevil à l'époque, juste avant Bendis, qui paraît-il est pas trop mal. Même s'il n'est jamais réédité, il est fréquemment oublié, mais paraît-il, ça se laisse lire. Là, par contre, c'est vraiment laborieux.
Et donc ce troisième arc vendra respectivement à 89 000, 82 000 et 81 000 exemplaires pour la troisième partie, quoi.
Ah oui, c'est vraiment plus bas que les
Oui,
autres.
c'est plus bas que les autres. Et on va voir que ça va se tasser vers ces chiffres de vente, quoi.
La série est en train d'atteindre son rythme de
C'est
croisière,
ça,
en fait.
c'est ça. Qui n'est pas un mauvais rythme de croisière, mais qui n'est pas non plus forcément dans le top, quoi. Dans le top 10.
Voilà, oui, c'est pas l'effervescence qui était attendue par Marvel.
Non, pas forcément. En tout cas, pas aussi vite, je pense, qu'ils espéraient que ça dure plus longtemps à de meilleures places, quoi, avec de meilleures ventes. Quatrième arc, celui
Zeb Wells.
de Zeb Wells et Chris Bacalo.
Zeb Wells, c'est au scénario et Chris Bacalo au dessin. Bacalo qui a un style qui ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'aime beaucoup, mais je comprends tout à fait pourquoi il peut déplaire. Et là, Bacalo est très bien choisi pour cet arc, puisque c'est un dessinateur qui a un style assez fouillis, hein. C'est énormément chargé, c'est vraiment particulier. En fait, c'est compliqué à décrire, hein. Faut vraiment voir pour comprendre. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Et Zeb Wells lui fait un arc à sa hauteur, puisque Spider-Man va se retrouver confronté à des divinités mayas, donc des personnages qui ont plein de motifs. Enfin, Bacalo, il est dans son élément pour dessiner ce genre de choses, et surtout en plein blizzard. New York, c'est une ville qui est souvent l'hiver confrontée à des blizzards, et là,
J'aime ces
Bacalo, pour les
blizzards.
scènes de neige, je trouve que son style est parfait.
Oui, moi c'est pratiquement. Bah si, j'ai envie de te dire, oui, c'est mon arc préféré des quatre premiers. Alors certes, c'est le plus déconnecté,
Oui.
mais c'est finalement peut-être le plus sympa justement parce qu'il est déconnecté. C'est-à-dire que les autres, il y avait tellement des nouveaux points de continuité, des nouveaux personnages qui me cassaient les couilles. Là, bon bah c'est une aventure de Spider-Man, point final, quoi, j'ai envie de te dire.
Oui.
On voit un petit peu Jameson, bon.
Oui, on voit un peu Jameson. Il y a un Carly Cooper qui est au centre de
Oui.
l'intrigue, mais ça ne va pas vraiment faire avancer le schmilblick par rapport à elle.
D'ailleurs, c'est là où elle commence à être enfin utilisée, quoi.
Oui, on en fait enfin quelque chose. Et il y a un petit twist aussi sur le méchant, enfin, c'est pas trop
Oui,
mal.
ouais, j'avais trouvé ça sympa, quoi.
Ouais, avec Wolverine en guest, mais assez inutile finalement.
Oui, et alors du coup, tout à l'heure, tu parlais de sa vie avec les New Avengers, c'est aussi le premier auteur à mentionner ça, puisqu'au début, on le voit
Oui.
prendre le petit déjeuner avec Wolverine, et puis il y a peut-être Doctor Strange, je crois aussi, avec eux.
Oui, il me semble, ouais, où il le mentionne. C'est à peu près le premier, et à peu près le seul en fait, je pense, à le faire. Et du coup, cet arc en 3 épisodes est très sympa, mais très dispensable. Et moi, il m'a fait l'effet d'un arc qu'on aurait pu avoir dans Marvel Team-Up ou dans le deuxième, voire le troisième titre mensuel de Spider-Man.
Alors, dans Marvel Team-Up, je t'arrête, puisque bah, y a pas de team-up. Donc, ça aurait été difficile.
C'est ce que ça laisse penser au début.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce qu'on voit Wolverine.
Oui, voilà,
oui. D'accord, oui, ok.
Il est inachevé, le team-up.
Ouais, bah, il est vraiment sur 3 pages, quoi, en fait, finalement.
Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Vraiment,
oui,
importance
oui.
très moindre. Divertissant, mais oubliable.
Et bah pourtant, on va regretter cet arc quand on voit l'épisode suivant. Alors, l'épisode suivant est un one-shot. Premier one-shot de Brand New Day. Bob Gale est de retour, déjà, trop tôt.
Oui.
Barry Kitson au dessin, Barry Kitson fatigué. Et puis un arc avec le retour de Frick, déjà.
En fait, c'est tout simplement la conclusion de Frick, quoi. Ouais. Est-ce que c'était voulu parce qu'il voulait rester sur des rythmes de 3 épisodes par mois? Est-ce qu'il y a eu du retard? Je ne sais pas. Mais c'est donc la conclusion de Frick. Et puis, moi, je pense que Barry Kitson. Il s'est juste dit qu'il allait pas se fatiguer pour ce truc, quoi.
Oui.
C'est clairement pas
Non,
terrible.
c'est vraiment pas terrible. Il se passe pas grand-chose de notable.
Non.
À part peut-être la fin où Frick est emporté par des gens et on s'aperçoit que sur leur camion, il y a marqué Oscorp. Ça donne une idée de quand et comment on va revoir Frick.
D'ailleurs, on l'a pas dit, mais le professeur Connors réapparaît aussi pendant l'épisode avec Freaks, mais il ne devient pas un lézard. Hein. On reste vraiment sur uniquement des nouveaux vilains. Pas d'anciens vilains, pour l'instant que du neuf.
C'est ça. Que du neuf, mais avec du vieux, finalement. Puisque
Ouais, oui, voilà.
Frick, c'est ni plus ni moins qu'un lézard de bas étage.
Oui, c'est un sous-lézard, oui. Surtout qu'on en a déjà eu des sous-lézards avant, des personnages plus ou moins liés à Connors qui
Oui,
mutent.
oui, oui.
Donc c'est une idée en plus réchauffée de chez
Ouais,
réchauffée.
ouais. Et Menace, bah, c'est un Hobgoblin bas de gamme. Et puis, enfin, voilà, quoi. Et puis Mister Négatif, bon, bah, finalement, c'est un caïd du pauvre, quoi.
Oui, totalement. Puis c'est le vilain qui est bipolaire. Hein. Quelque chose de très commun, notamment chez les gangsters, ça.
On passe du coup à l'arc suivant qui commence au numéro 500. Alors j'ai pas donné les numéros à chaque fois, mais
Oui.
559, je crois.
Ouais, le 559 au
Voilà,
561.
en 3 parties à nouveau.
Un arc que tu as beaucoup aimé, il me
Ah
semble.
oui, alors franchement, à l'époque, c'était mon nouvel arc préféré. En même temps, on partait de pas bien haut, on va dire.
Oui.
Dan Slott et Marcos Martin au dessin. Alors Marcos Martin au dessin, déjà à l'époque, j'avais beaucoup aimé son style. Avec des compositions de pages vraiment
Ah
très très
oui.
sympas sur
Ah ouais.
Spider-Man. Et Dan Slott, là, m'avait beaucoup plus séduit que sur son premier arc. Avec une intrigue où Spider-Man affronte une ennemie qui s'appelle Pepper Doll, qui est assez étrange, quoi.
Pour le coup, elle, on peut pas dire que c'est une repompe d'ennemi classique de Spider-Man.
Et justement, moi je trouvais qu'elle faisait très ennemie de Batman, quoi. Je la vois très bien à Arkham.
Ouais.
Dans le dessin animé des années 90, une espèce de fan hystérique d'un acteur, hein, je crois, qui acquiert des super pouvoirs. Alors, je sais plus comment exactement. Je crois que l'explication est vite donnée, quoi.
Je sais plus, ouais, enfin, ouais.
Mais du coup, elle est capable de se mouvoir comme du papier, d'où son nom, Pepper Doll. Voilà, enfin, c'est assez assez étrange, quoi. C'est une espèce de créature guimauve, un peu. Je sais pas comment le décrire, mais voilà, sous les dessins, enfin, de Dan Slott, de Marcos Martin, je veux dire, elle est même assez impressionnante, quoi.
Ah ben, les dessins font bien le taf, hein. Marcos Martin, il n'est pas encore à son top du top, hein. Il atteint vraiment son top niveau, je trouve, quand il est sur Daredevil quelques années après. Très bon choix pour cet arc. Et moi, ce qui m'a plu ici, c'est pas tellement Pepper Doll. Je trouve que, bon, Dan Slott, c'est pas le meilleur de son boulot non plus. Il y a une autre super-vilaine, Screwball, qui est vite introduite, qui est assez anecdotique. Mais ce que j'ai plus aimé, c'est le traitement de Peter Parker, puisque le nom de l'arc, c'est Peter Parker Paparazzi. Et il devient, bah, pour le compte du Daily Bugle, enfin du DB maintenant, pardon, il devient littéralement un paparazzo. Il emploie les méthodes des paparazzi, ce qui fait que d'ailleurs certains de ses proches lui reprochent. Tout ça par attrait pour l'argent. Bon, en même temps, on lui propose ni plus ni moins que 1, voire plusieurs millions, j'ai plus le chiffre en tête. Il est en galère de thunes, enfin, on comprend ses motivations, mais au fond de lui, il y a vraiment, on sent qu'il y a un déchirement, quoi. Lui-même se pose des questions, est-ce que je fais bien ou pas? Les autres persos lui disent, mais non, Peter, c'est pas toi, tu n'es pas un personnage de ce genre. Il me semble qu'à un moment donné, il y a même une embrouille avec Harry à cause de ça, si je dis pas de bêtises, ou avec Lily, je sais plus. Enfin, c'est plus ce volet-là, moi, de l'intrigue qui m'intéressait finalement.
Et il y a aussi un truc important dans cet arc, c'est la réapparition de Mary Jane. Déjà.
Ça y est, enfin, oui.
Bah enfin, moi j'ai envie de dire déjà finalement, parce que finalement on l'aura pas attendu très très longtemps.
Bah c'est juste que j'aime tellement pas la plupart des nouveaux persos que je suis content de la revoir quoi.
Oui, non mais oui, moi aussi, hein, j'étais content, et c'est peut-être aussi pour ça que c'était mon nouvel arc préféré depuis le début de Brand New Day, avec donc cette réapparition de Mary Jane qui fait une sorte de team-up avec Spider-Man, mais sans que l'un et l'autre ne se rencontrent quoi.
Oui, c'est très habile ça, oui.
Et on a aussi un petit peu d'éclaircissement sur le mystère jackpot à la fin de l'arc. Mary Jane rencontre quelqu'un à l'aéroport et voilà.
Oui, c'est dans celui-là, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire.
Bon, de toute façon, le cas de jackpot, on en parle tout à l'heure. Mais voilà, donc franchement, arc assez sympathique. Je sais pas, est-ce que pour toi, c'est le meilleur jusque-là?
Oui, bof, c'est vrai qu'il y a celui de Zeb Wells qui est assez inoffensif niveau continuité, mais oui, bon, c'est déjà ces deux arcs-là ont pour eux d'être très bien dessinés.
Ouais.
Graphiquement, ça me plaît dans les deux cas et c'est assez dynamique. On tente des choses, on a des idées un peu surprenantes. Mary Jane quand même à la fin, j'étais surpris, je savais pas que c'était à ce moment-là qu'elle réapparaissait. Donc l'arc a au moins ce mérite-là de nous surprendre un petit peu.
Alors cet arc commence avec 74 000 exemplaires vendus. Pour te dire, on est déjà. Alors tout à l'heure, je te disais qu'il était à la seconde place du top, Amazing Spider-Man. Là, on est à la 21e place.
Waouh! Ah ouais.
Pour le début de l'arc, de cet arc, quoi, de Peter Parker Paparazzi. 74 000 exemplaires, et puis le numéro suivant, donc le second de cet arc, 73 000. Et ça va vraiment se tasser aux alentours de 70 000 exemplaires, quoi.
Y a qui juste devant, juste comme ça par curiosité?
Alors il y a avant le. En fait, il y a les numéros 20 et 21 du classement qui sont les deux numéros d'Amazing Spider-Man, les 558 et 559.
D'accord.
Et juste avant, t'as un Justice Society of America.
Ah ouais, d'accord.
Ça devait être son corps Jeff Jones, je pense, à l'époque, sur Justice Society.
Oui. Très bon titre à l'époque, la JSA en plus. Hein.
Ouais. Alors, le numéro 1 du classement, par exemple, pour te donner une idée, c'était Secret Invasion numéro 2.
Ah, bah, le bon vieux temps.
Avec 182 000 exemplaires, ce qui est quand même colossal, même encore maintenant.
Bendis avait carrément fait une petite vidéo où il dansait à l'époque, je me rappelle.
Final Crisis numéro 1. Qui est sorti le même mois, n'arrive qu'en deuxième position avec 144 000 exemplaires. Il faut dire que Final Crisis, c'était quand même assez compliqué pour qui n'était oui. pas initié. Parce que, voilà, Grant Morrison, même en étant initié, Final Crisis, c'était compliqué.
Ouais, c'était bizarre. DC a très rapidement désavoué cet event, donc... Mais et puis bon, arriver deuxième parce que c'est Secret Invasion qui est premier et en plus le deuxième numéro. Donc vraiment le début, quoi, quand les ventes sont hautes, c'est pas déshonorant non plus.
Absolument, mais par contre, voilà, Amazing Spider-Man, l'effet Brand New Day, c'était déjà bien tassé, quoi.
Là, c'est plus déshonorant, et puis quand je vois les numéros dont on va parler maintenant, on est vraiment dans le déshonneur le plus total.
Oui, alors on a eu une petite bouffée d'air frais avec Dan Slott, et puis maintenant on repart sur du Bob Gale.
Oh là là.
Avec Steve McMahon, je crois, au dessin.
McMahon. McMahon, ouais. Mike McMahon.
Oh, je sais plus, enfin bref.
Triple M.
Graphiquement, encore une fois, c'est relativement sympa. Le truc, c'est que durant tous les premiers arcs de Brand New Day, graphiquement, c'est plutôt bien. Par contre, voilà, au niveau scénario, Bob Gale, définitivement, c'est le moins bon de toute la poule scénaristique. Et, de tout le pool, ouais.
Tu me diras, est-ce que c'est pas écrit par une poule parfois? On peut se le demander. Hein.
Mais je pense qu'une poule aurait plus d'idées quoi, que ce truc-là. Parce que, alors là, c'est un arc en deux. Qui s'appelle l'autre Spider-Man, je crois, ou quelque chose comme ça.
Le premier épisode, c'est l'autre Spider-Man, puis après, c'est un Spider-Man entre dans
un
bar.
Enfin bref, bon, voilà. c'est le même arc, quoi. Concrètement, c'est le même arc, où Spider-Man est confronté à une espèce de personnage secondaire, alors là, totalement inutile, encore un de plus, dans Brand New Day, qui s'appelle le Bookie, qui fait des... des comment dire, des...
Bah, c'est un bookmaker, quoi.
Voilà. Sur les combats entre super-héros et super-vilains.
Oui.
Il va dans le bar sans nom, le fameux bar sans nom qu'on retrouve encore, même à l'heure actuelle, dans les épisodes de Nick Spencer.
Oui.
Pour faire pour tenir des séances de paris avec d'autres super-vilains qui jouent donc à parier sur des affrontements.
Ce qui est une bonne idée, en fait. En soi, c'est pas bête du tout. L'idée peut
être séduisante. Non, mais ça peut être très bien écrit et très drôle, ce type de scénario. C'est juste que là... écrit par Bob Gale, c'est juste chiant, quoi.
Ça aura des pâquerettes. En plus, on a enfin un arc où on a, alors c'est des persos très secondaires, mais on a enfin un peu des vilains qui réapparaissent. On a notamment les Enforcers. Alors, c'est quoi en français déjà? C'est
les exécuteurs.
Les exécuteurs, voilà, qui jouent un petit rôle.
À l'époque de Strange, c'était ça, quoi.
Oui, voilà, oui, je crois que là, c'est les exécuteurs aussi chez Panini. Ça y est, enfin, on a des vilains un peu classiques, même s'ils sont pas terribles, qui reviennent. Et puis, ben, l'arc est, voilà, l'arc, franchement, je me suis ennuyé. Là, j'étais au bout de ma vie, quoi.
Il y a juste un truc. On va dire, le mot intéressant est peut-être même un peu fort, mais Spider-Man demande à Bucky, ou à son fils, je sais plus d'ailleurs, l'un ou l'autre, parce qu'on voit les deux protagonistes, hein, y a Bucky et son fils, qui, je crois que c'est son fils, d'aller enquêter sur justement cette histoire de Spider-Tracer, parce que comme il a des connexions, il connaît des gens dans le milieu, voilà, il est chargé d'aller enquêter là-dessus.
Oui, il y a un peu de ça, on essaie de faire un peu...
Je le mentionne parce que on va en reparler plus tard. Alors je sais plus si ce sera aujourd'hui dans les épisodes dont on va parler ou si c'est plus tard. Je crois que c'est plus tard même.
Non, ce sera après, ouais. Et puis bon, il y a un peu de connexion avec l'arc de Slott aussi qui est fait. Ce qui montre qu'il y a effectivement les scénaristes discutent entre eux. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais quand il y a les crédits, à chaque fois on nous donne le nom du scénariste et du dessinateur de l'épisode. Mais on a le nom des quatre scénaristes principaux qui sont en bas... en tant que, je sais plus, speeder comité ou un truc comme ça, on essaie quand même de nous montrer qu'ils discutent entre eux, quoi.
Ça va vite changer, hein, parce que Bob Gale, bah, je crois que c'est son dernier arc solo. Enfin, il va disparaître.
Je crois aussi, oui.
Zeb Wells, il refera des épisodes, mais bien plus tard dans Brand New Day. Et du coup, on va avoir d'autres auteurs qui vont les remplacer, quoi. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, puisqu'il y a un one-shot qui est tout aussi peu intéressant. Alors là, vraiment... C'est le retour d'Override dont je parlais tout à l'heure. C'est le fameux épisode avec Vin Gonzalez qui tombe comme par hasard, encore une fois, sur Spider-Man et Override. Enfin, voilà.
Et qui apprend une grande leçon de vie à la fin. Bon, vous le spoil. Non, quand tu es flic, tu ne dois pas l'être 24 sur 24. Reste avec ton papa au stade et ne va pas jouer au flic. Parce qu'au final, il envenime la situation. Enfin, bref.
Et le pire, c'est que cet épisode est écrit à 6 mains.
Oh là là,
je sais plus qui a l'honneur de ne pas justement figurer au crédit de cet épisode.
Alors vas-y, je te laisse deviner. Moi, j'ai les crédits sous les yeux, là.
Alors écoute, est-ce que c'est pas Guggenheim qui ne participe pas?
Eh non, Guggenheim est dedans.
Ah, c'est Bob Gale, alors, peut-être.
Bob Gale est dedans aussi.
Ah bah alors, c'est Zeb Wells.
Eh oui, c'est Zeb Wells qui n'est pas là, vu que Slott est là. Et on accueille le Paolo Siqueira pour les dessins. Eh ben, il aurait mieux fait de rester chez lui, hein, parce que c'est vraiment pas terrible.
Non, c'est pas terrible, même graphiquement, c'est pas terrible, terrible.
Il est pas inspiré, non.
Et surtout, oui, cette histoire qui se résume à une course-poursuite, hein, entre Spider-Man et Override. Il y a vraiment rien à en dire de plus, quoi.
Non, c'est nul.
Voilà. On va passer à l'arc suivant, Kraven's First Hunt. Alors là, à l'époque, ça m'intriguait déjà le titre. Je me suis dit, peut-être qu'on va démarrer dans les choses sérieuses.
D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était vraiment le premier arc où on avait un peu de la promo autour, ou tout du moins un peu de la hype, quoi. Les gens se disaient, tiens, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Kraven, le chasseur, celui qu'on connaît là, avec son habit en peau de lion, est mort depuis bien longtemps. Il y a ses enfants qui, de temps en temps, jouent l'intérim, mais sinon, lui, il est mort, et on se disait, mais de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça peut être? Puis surtout, ça renvoie au titre de l'arc où Kraven meurt, le fameux Kraven Last Hunt, la dernière chasse.
Bah alors, on savait déjà, puisqu'il y avait les couvertures et les sollicitations, qu'il s'agissait de la fille de Kraven, qu'on allait faire connaissance avec la fille de Kraven.
Ce qui d'ailleurs est un peu dommage, parce que dans l'arc, pendant 3 numéros, on ne te dit rien sur elle. Et c'est vraiment tout à la fin où explicitement on te fait lire.
Oui, mais cette fille de Kraven qui est encore un enfant Kravinov, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu, les deux fils.
Oui.
Donc c'est juste la troisième à faire son apparition. Alors moi j'étais assez hypé au début et je dois te dire que cet arc m'a carrément déçu, quoi. Franchement, j'avais pas trouvé ça bon finalement. Mark Guggenheim au scénario et Phil Jimenez qu'on retrouve au dessin.
Bah, graphiquement, ça a de la gueule.
Graphiquement, c'est bien, mais c'est vraiment dans l'exécution. Alors, il essaye de faire des références à Kraven's Last Hunt en réutilisant le personnage de Vermin, mais pour autant, c'est pas extraordinaire, quoi. C'est pas extraordinaire.
C'est pas très subtil. Moi, l'arc m'a un peu déçu. Alors, cet arc essaie de faire un peu avancer la dynamique entre Peter Parker et Vin Gonzalez, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Peter, et maintenant qu'il a un peu plus de moyens quand même, vu qu'il travaille de nouveau pour le DB, emménage avec Vin Gonzalez, qui cherchait un coloc, D'ailleurs, on a eu des scènes pseudo-humoristiques de Vin qui croit que Carly va lui demander si elle peut emménager avec lui, mais en fait non, c'est Peter, bref. Et la cohabitation se passe très très mal. Et finalement, la fille Kraven va prendre Vin pour Spider-Man parce qu'elle va suivre Spider-Man qui donc se fait repérer en rentrant ou en sortant de chez lui. Et elle va croire donc que c'est Vin puisqu'elle va trouver dans la chambre de Peter un costume. Et que Peter est absent à ce moment-là du logement. Enfin, c'est bon. C'est pourquoi pas, soit. Et à la fin, on a Spider-Man qui va s'expliquer avec Vin et qui donne une excuse. Alors bon, on va pas tout spoiler
Oh,
non
si,
plus,
si,
mais.
bah, si, franchement, on peut. Ça, on peut, quoi, de toute façon.
J'allais juste dire que l'excuse le fait passer pour un abruti, mais
Ouais.
pour pas dire autre chose, pour pas être plus vulgaire, hein. Mais vraiment, en gros, il explique à Vin que pour protéger son identité secrète. Il trompe les ennemis en faisant croire que des personnes qui sont plus ou moins proches de lui et qui ont la même corpulence que lui sont en fait Spider-Man. C'est vraiment une méthode de.
Bah, de connard, hein, de connard. C'est-à-dire que Peter Parker, comme excuse, il trouve rien de mieux que de dire à Vin, bah oui, bah tu vois, hein, je suis un gros connard et je suis ton coloc, et voilà. Et voilà, bah c'est comme ça.
Ah non, il lui dit pas que c'est le coloc, il lui révèle pas son identité
Non, mais
secrète.
enfin. Bah si, enfin, Vin sait très bien que c'est son coloc.
Bah non, il a pas compris que c'était Peter.
Mais non, il sait que Peter Parker est son coloc, c'est ça que je veux dire.
Oui, non, mais c'est Spider-Man qui passe pour un idiot, pas Peter.
Enfin, Peter passe pour un salaud. Il prétend que justement, il fait passer. Attends, c'était quoi dans l'histoire? C'était que c'était lui qui avait le costume?
Ah non, il dit pas ça. C'est juste Spider-Man qui dit qu'il place des pièges pour faire croire à ses ennemis que d'autres personnes sont Spider-Man.
Oh, putain, c'est bizarre, parce que moi j'avais pas du tout le même souvenir. Moi j'avais le souvenir que c'était Peter Parker qui expliquait que pour justement qu'on ne. Qu'on, pour ces histoires de photos en fait. Mais je dois me gourer en fait, je dois me gourer.
Alors, est-ce que tu confonds pas avec l'anecdote que je t'ai racontée sur Lois et Clark, que j'allais raconter de toute façon?
Aucun rapport, mais
Parce que cet épisode me faisait penser à, rappelez-vous, la série Lois et Clark qui passait il y a fort longtemps sur M6, avec des reporters qui découvraient, qui voyaient Superman, qui était Clark Kent, qui était blessé, devenir Superman et sauver, et ils ont pas eu le temps de le filmer. Par contre, en fouillant dans l'appart de Clark, ils trouvent les costumes planqués. Et tout à la fin de l'épisode, autant vous dire que dans les années 90, ils s'inspiraient bien des comics des années 50-60 parce que c'est un peu barré. On a les parents Kent qui utilisent un projecteur d'hologramme pour projeter Superman en même temps que Clark Kent est dans la foule, pour faire dire à cet hologramme qu'en fait, Superman confiait ses costumes à Clark pour que Clark, je sais plus trop, les garde ou les lave, ou qu'enfin bref. Une explication, bon, qui est un peu kitschounette, quoi, mais qui passait dans le cadre de la série. Et je me suis dit, bon, bah, ils auraient peut-être que les scénaristes auraient dû pas partir sur. Alors là, c'est Guggenheim, il aurait peut-être que Guggenheim aurait dû partir sur une explication de ce genre-là, plutôt que de faire passer Spider-Man pour vraiment une enflure.
Oui, et alors je sais pas pourquoi j'avais un doute, je pensais que c'était Peter Parker qui passait vraiment pour une enflure à la fin, quoi. Et que même Vin Gonzalez était vénère envers Peter Parker.
Non, mais il est vénère aussi envers Peter Parker parce que je sais plus si c'est dans cet épisode-là ou un autre où il découvre que Peter en fait s'est fait virer du DB. Parce que bon, oui, on l'a pas dit, mais Peter gagne de l'argent grâce au DB mais finit par se faire virer en fait entre-temps. Et aussi cet arc, c'est le retour de l'amitié Daredevil-Spider-Man.
Oui, alors là, je viens de vérifier, effectivement, dans la fin du numéro, effectivement, Vin Gonzalez frappe Spider-Man, et je sais pas pourquoi. Je l'ai lu en plus récemment, et j'avais souvenir que c'était Peter Parker qui se prenait une mandale, et non pas Spider-Man, enfin bref.
Alors peut-être qu'il s'en prend une dans un épisode ultérieur que j'ai pas encore lu.
Non, mais ça doit être moi qui a déliré, quoi.
Bah, en même temps, ce genre de situation, c'est pas non plus quelque chose de super inédit. On repompe la dernière chasse de Kraven. J'imagine que cette histoire de on prend quelqu'un d'autre pour Spider-Man, bah, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé.
Ah bah oui, 150 fois. Oui.
On reparlera par exemple bah, de Flash Thompson qui se déguise en Spider-Man, par exemple, dès les années 60. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez courant. Que voilà, il n'y a pas grand-chose d'inspiré. Et donc, comme je disais, on a aussi le retour de l'amitié Daredevil, Spider-Man, et on nous confirme que bah, Daredevil non plus ne sait pas qui est Spider-Man dans la vraie vie. Et ce qui est très rigolo, c'est que récemment, on a eu l'inverse en VO, vu que maintenant, bah, enfin en VO même, c'est des épisodes parus en VF, dans le run actuel de Chip Zdarsky, bah, c'est Daredevil qui a fait oublier au monde qui il était. Et donc maintenant, c'est Spider-Man qui ne sait plus qui est Daredevil. Enfin bon, bref, comme quoi, ces idées un peu biscornues de faire oublier au monde entier une identité secrète, ça continue encore maintenant chez Marvel.
Sinon, Au niveau des chiffres, le numéro 567, qui est donc le dernier de cet arc, 68 000 exemplaires, voilà. Et après, il y a une belle remontée, puisqu'on arrive à un arc qui est le premier gros arc, vraiment gros événement de Brand New Day, qui clôture un petit peu, on va dire, la toute première partie de Brand New Day, c'est New Ways to Die.
Ah.
Et New Ways to Die cumule, en tout cas pour le premier numéro, donc le numéro 568, 93 000 et quelques exemplaires. Donc une belle remontée quand même. Mais bon, qui va pas forcément tenir tout l'arc non plus, quoi. Puisque dès le second, pour te dire, qui sort le même mois, on redescend à 77 000.
Ah, c'est vraiment dommage, parce que ouais, bel arc. Déjà, retour au dessin de John Romita Jr. Tout le monde ne s'en réjouira peut-être pas, mais ça reste un dessinateur emblématique de Spider-Man, surtout après le run de JMS où il a pas mal officié.
Ça dépend des pages et des cases dans cet épisode.
Ça dépend, oui. En fait, c'est un peu symbolique, je trouve, d'appeler Romita ici, puisque c'est enfin un arc où on fait revenir des méchants un peu plus classiques.
Dont Norman Osborn.
Oui, voilà. Principalement Norman Osborn.
Qui est avec ses Thunderbolts à l'époque, parmi lesquels on trouve, alors là, hérésie de toutes les hérésies, moi j'aimais pas du tout ça, Scorpion, mais qui est Venom, quoi, à l'époque.
Ah bah moi j'aimais beaucoup, tu vois.
Pour moi, Scorpion, c'est Scorpion, quoi. Mac Gargan, c'est Scorpion, c'est pas Venom.
Je suis d'accord, mais je trouvais ça intéressant, puisque bon, comme on pouvait s'en douter, c'était que passager.
Oui.
Il y avait ce côté, comme on le voit dans cet arc, le symbiote qui le lâche, et du coup, McGargan panique. Il y a ce côté, McGargan qui est Venom, essaie de devenir un vilain d'encore plus grosse envergure. En plus, le scorpion, c'est un animal qui a du poison en lui, donc je trouvais que Venom, ça allait bien. Je trouvais que s'il fallait passer le symbiote pendant quelques temps à un vilain, je trouvais que Scorpion, ça lui correspondait bien.
Tu vois, McGargan, il a tellement pas de charisme, il est tellement pas développé comme personnage, que de toute façon, ça aurait pu être une espèce de bandit lambda, quoi.
Oui, mais en même temps, c'était l'occasion de le développer aussi.
Bah, enfin, McGargan n'est pas tellement plus développé, quoi.
Non, mais je trouvais que c'était pas bête de choisir lui, tu vois. Je préférais largement qu'on donne le symbiote à McGargan qu'à Octopus ou à un autre vilain comme ça qui a plus de background, tu vois. Après, McGargan reste assez interchangeable, ça, je suis d'accord.
Bah alors, quitte à faire dans justement un personnage de bas étage, on aurait pu aller chercher, surtout dans Spider-Man, vraiment, vraiment un gars... Enfin, tu vois, un gros loser, quoi, tu vois.
Oui, bon, en même temps, de le donner à un vrai vilain qu'on a l'habitude de voir, ça mettait un peu plus d'impact. Donner ça à un loser lambda qui sert de chair à canon en temps normal, c'est un peu moins intéressant aussi.
Ouais. Je suis peut-être très rigide là-dessus, mais j'ai jamais été fan, en fait, des personnages qui se passent des identités comme ça, quoi. Encore, je trouve ça logique quand c'est, par filiation. Autant là... Voilà, Scorpion, c'est Scorpion, et il a rien à voir avec Venom, quoi.
Bon, on en reparlera peut-être.
Est-ce que t'aimerais un arc où les ennemis de Spider-Man, enfin, un certain nombre d'ennemis, permutent leurs identités secrètes?
Bah, ça pourrait être rigolo, si c'est juste un arc, et si, du coup, Spider-Man, ça c'est un truc de manière générale, les super-héros et les super-vilains aussi, je les trouve toujours bêtes, dans le sens où ils prennent des pseudos et des habits qui rappellent leur pouvoir ou qui les dévoilent, tu vois. J'aime bien, moi, quand de temps en temps, un auteur nous met un personnage où on découvre au bout d'un moment que les pouvoirs sont pas vraiment ce qu'on pensait être, ou c'est un peu le cas, par exemple, des Young Avengers, où on nous faisait croire que Hulkling, c'était un Hulk, que Asgardian, c'était Future Wiccan, c'était un Asgardien et tout, alors qu'en fait, pas du tout, parce que ça permet, justement, de tromper les ennemis. Et un arc, comme tu décris, ça pourrait être marrant, parce que Spider-Man pourrait être déstabilisé, puisque il est face à un vilain, et au final, la personne sous le costume n'a pas les pouvoirs ou les habilités auxquelles il s'attend.
Oui, puis du coup, par exemple, j'ai envie de te dire, si... Bon, c'est un exemple grossier, mais c'est pour l'exemple... Si Doc Ock prenait l'identité de Mysterio, il aurait peut-être une autre façon de concevoir, justement, et d'utiliser cette identité, quoi.
Oui, aussi, oui. Ça pourrait être marrant. Si des scénaristes nous écoutent.
C'est surtout si un dessinateur nous écoute, parce qu'à la rigueur, le scénario, moi, ça m'intéresserait d'écrire ce scénario parmi tant d'autres. Mais je pense que jamais personne ne voudra écrire des histoires pour nous, donc ne voudra dessiner, je veux dire, des histoires pour nous.
Ah, c'est beau de rêver, hein.
Voilà.
Mais en tout cas, parlant dessin, donc, tu aimes bien John Romita Jr. ou pas trop?
Ah si, moi j'aime bien en règle générale. Mais là, justement, je l'ai pas trouvé très en forme sur cet arc, quoi. À part, enfin, il y a certaines pages qui sont très très bien. Par exemple, avec Venom et Anti-Venom, on sent qu'ils s'amusent bien.
Ouais.
Par contre, il y a des pages dégueulasses. Il y a une page notamment, alors à la fin, je crois, de la troisième partie. T'as Norman Osborn qui a la visite de Menace. Il se retourne sur le toit et à mesure qu'il se retourne, il perd des cheveux. Ses cheveux
Ah oui, c'est
rétrécissent,
vrai. Oui.
se resserrent sur son crâne au fur et à mesure qu'il se retourne.
Ah bah la calvitie fulgurante, hein.
Non mais ça c'est quand même extraordinaire parce que enfin même quand t'es encreur coloriste, tu dois bien te rendre compte que y a un truc qui va pas quoi. Enfin ça se voit tout de suite. Donc tu peux à la limite tu peux corriger ça même si c'est les dessins de John Romita Jr. tu peux lui dire quand même regarde ton personnage son volume capillaire rétrécit à mesure qu'il se retourne sur la page ça va pas mais non ils ont laissé tel quel et à chaque fois que je relis cet épisode je m'attends à cette scène tellement ça m'avait marqué à l'époque ce bug
Bah, en plus, c'est Klaus Johnson en plus qui encre. C'est pas n'importe qui, quoi. Donc, c'est étonnant.
Parlons un peu du scénario du coup. Donc, Peter Parker est non seulement à nouveau confronté à Norman Osborn et à The Thunderbolts, mais surtout à l'anti-Venom qui est en fait Eddie Brock, qu'on retrouve donc dans le Fest Center avec Tante May, puisqu'il est devenu sans-abri.
Oui.
Et alors, il a survécu à son cancer, hein, d'ailleurs, on pensait qu'il était mort. En fait, il a survécu à à son cancer grâce aux résidus de symbiote qui restaient en lui. Alors, je sais plus d'ailleurs comment il devient anti-Venom d'ailleurs.
Bah, c'est au contact de Monsieur Négatif.
Oui, c'est au contact. Et voilà, c'est ça, c'est au contact de Monsieur Négatif qui a des espèces de pouvoir justement de guérison. Ça crée une mutation du symbiote. Du coup, il devient anti-Venom, qui est le seul être capable de pouvoir d'ailleurs vaincre les symbiotes, quoi.
Oui, et d'ailleurs, ben, du coup, un peu thématique, Monsieur Négatif, c'est quelqu'un d'inversé. Donc là, on a un Venom inversé. Il est blanc avec le
Oui.
symbole de Venom en noir.
Pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas. Alors graphiquement, moi je trouve que l'anti-Venom, il a de la gueule, hein.
Alors,
Vraiment.
ouais, l'anti-Venom, il est pas mal. Par contre, on parlait justement de McGargan, Scorpion, etc. L'espèce de McGargan, Venom, Scorpion de la fin, là, de cet arc, il est quand même dégueulasse.
Oh ben j'aime bien.
Ah bon?
J'ai bien aimé.
D'accord, bon bah écoute.
Donc justement, tu parlais de la maladie d'Eddie Brock. On découvre Eddie Brock un peu dans l'épisode, dans l'impression qu'il sort de nulle part. Mais on a un backup derrière. Enfin, un backup, donc un petit récit en plus à la fin du numéro. Qui, je dis derrière parce que bah, Panini l'a logiquement mis à la suite du premier épisode de New Ways to Die. Qui nous raconte un peu plus le parcours d'Eddie Brock. C'est assez intéressant. On voit d'ailleurs que. Enfin, Eddie Brock nous révèle, vu que c'est lui le narrateur, que lorsqu'il se regarde dans un miroir, même si Venom n'est plus là, il ne voit que Venom. Et l'épisode est dessiné par Adi Granov. Et surtout. Il est scénarisé par Mark Waid, qui réalise là sa première entrée dans le Spider-Man de
C'est
Brand
vrai.
New Day. Mark Waid, qu'on retrouvera plus tard comme scénariste parmi ceux qui se succèdent suivant
Dans
les
pas longtemps
arcs.
d'ailleurs.
En fait, cet arc,
Il y a
alors déjà
beaucoup
ce qui est
d'action.
marrant, et
Il y
on
a quand
voit un
même
peu.
beaucoup d'action parce que c'est en
Oui,
six
oui
parties
ça.
donc.
C'est le premier gros arc finalement, et c'est le premier qui est en six
Et
parties.
peut-être un peu trop parce que moi j'ai trouvé. Alors, surtout à l'époque, en le relisant, c'est moins problématique parce qu'il y a beaucoup moins d'attentes évidemment. Mais à l'époque, j'ai trouvé ça quand même long. Je trouvais ils auraient pu faire en 5, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, franchement,
Oui.
y a beaucoup de temps de baston où finalement c'est un arc qui est pas mal niveau action, mais qui n'avance pas tant que ça, hein.
Bah, je l'ai lu en une fois, tu vois. Donc forcément, quand on le lit en une traite, alors ça m'a tenu, oui, ça m'a tenu une bonne heure, je pense, si ce n'est plus même. Ça m'a pas dérangé.
Les intrigues principales n'évoluent pas beaucoup avec cet arc, finalement. On n'a pas vraiment de révélations qui font avancer
Oui.
les intrigues principales, quoi, les principaux fils rouges. On sait toujours pas qui les menace. On le voit dans cet arc, il intervient,
Non.
etc. On sait toujours pas qui c'est. Bon, voilà quoi. L'histoire des élections, bah, ça poursuit son cours.
Ça avance un peu sur Mister Négative, là on voit clairement
Oui.
que c'est Martin Lee. Mais globalement, c'est pas très grave parce que déjà, on est heureux de enfin revoir Norman Osborn. Et Dan Slott, je sais pas, il a trouvé son mojo. C'est bien écrit de manière générale, tout est bien écrit. Ça s'enchaîne bien. Dan Slott maîtrise à la perfection Norman Osborn. Harry, qui jusque-là était, bon, on le voyait de temps en temps, il était un peu mode Golden Boy. tout marchait bien pour lui. Il avait une petite copine milliardaire, très jolie. Son petit café, son commerce, visiblement, ça se passait bien.
Ouais.
A priori, il passait son temps à glandouiller, mais il était très content de comment il faisait fructifier sa petite affaire. Et Norman Osborn le détruit, mais moralement, enfin, il a des mots pour lui qui sont très durs, mais c'est écrit d'une façon où on a mal pour Harry, quoi.
Oui.
À la fois, on déteste Norman, ce qui est normal, mais on n'a pas de la pitié pour Harry, mais on a de la peine, quoi, vraiment. Enfin, Dan Slott arrive à toucher la corde sensible chez le lecteur, je trouve.
Ouais.
Tout en nous donnant notre dose d'action, et surtout, il arrive vraiment à faire comprendre qu'il y a un passif, aussi bien entre Osborn, le père, et Spider-Man, que entre le Scorpion et Spider-Man. Ou même Venom. Enfin, il maîtrise aussi très bien Eddie Brock. Vraiment, je trouve que ces quatre personnages-là, il a compris. Pour moi, il a réussi à trouver leur voix. Il les a écrits d'une façon où j'ai été accroché tout de suite. Et en plus, l'intervention des Thunderbolts, ça me fait penser à l'excellente version de cette équipe écrite au même moment par Warren Ellis. Donc voilà, petite Madeleine de Proust au passage.
Alors, très franchement, la manière d'écrire les Thunderbolts par Warren Ellis est quand même supérieure à ça, hein,
oui.
À celle de Slott.
Oui, oui, oui.
Alors, je suis d'accord avec toi, hein, j'ai bien aimé les scènes avec Norman Osborn. Bon, voilà, ça m'a pas non plus transcendé tant que ça, quoi, cet arc. Ah oui, on retrouve Freak aussi, j'allais oublier ça. On retrouve Freak,
oui.
Qui sert d'outil d'expérimentation, voilà, Norman Osborn.
Tu sais quoi, on le voit très peu, mais c'est sans doute l'utilisation la plus intéressante qu'on
oui,
a eue de Freak.
Oui, 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 oui. Clairement. La Slott, à mon avis, vu que Bob Gale était en train de se barrer, se dit bon bah tiens, qu'est-ce que je vais faire de ça, bon voilà.
Ça devait déjà être prévu, vu qu'à la fin de l'épisode de Gale, Freak est emmené par Oscorp, ils ont dû se concerter. Mais tu vois, en même temps, tu dis avec raison que cet épisode ne fait pas trop avancer les intrigues, mais c'est un petit peu un nœud, je vois ça comme plusieurs intrigues qui finalement s'entremêlent à ce moment-là. Ça y est, Mister Négatif, qui était quand même un petit peu à part à la base, entre dans la danse par rapport à Menace, tu vois, par rapport à ce genre de choses. On a les persos qui commencent à converger vers peut-être des résolutions.
Alors ne parle pas de convergence, s'il te plaît, quand tu parles de comics. J'entends bien tes arguments. C'est-à-dire que, ayant lu la suite, je peux te dire que les autres arcs principaux, on va dire, font avancer beaucoup plus les choses que celui-là, quoi. Vraiment, celui-là, c'est un arc essentiellement d'action. Et d'ailleurs, en le refeuilletant, ça me fait même penser, j'ai envie de te dire, au dessin animé des années 90, dans lequel il y avait 36 scènes d'action qui s'enchaînaient. Je vois bien cet arc adapté dans cet animé, quoi. Bon, ce qui n'arrivera jamais, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, quoi.
Oui, surtout que dans l'animé, ce qui faisait vraiment plaisir, c'est que parfois, surtout vers la fin, j'ai l'impression, ils nous faisaient des épisodes où il y avait plein de vilains différents qui n'étaient pas forcément liés, qui se rencontraient, qui s'affrontaient. On avait vraiment... C'est souvent le Kaïd contre Osborn ou contre Octopus, genre de choses. Donc vraiment, on a un peu cette vibe-là, je suis d'accord.
Oui, ça me fait penser à ça. Ouais.
En fait, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe parce que par rapport à toi, je ne suis pas allé beaucoup plus loin, mais c'est un peu un mid-season, quoi. On réunit un peu tout le monde. Puis en plus, les 3-4 premières pages, on nous fait un récap de Peter Parker, sa vie, son œuvre, ce qui donne un petit peu un côté attention dans cet épisode, on va ressortir les trucs du passé, ce qui n'est pas forcément vrai, c'est surtout qu'on fait revenir Osborn. Osborn qui d'ailleurs ne sait plus que Peter est Spider-Man, ce qui donne une autre dynamique, alors que Peter, lui, sait toujours que Osborn est le bouffon. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Dexter Bennett est ami avec Osborn et il essaie de défaire le fait que. Les gens pensent que Osborn était le bouffon, c'est un peu bizarre ça. C'est quelque chose qui d'ailleurs à l'époque quand même, même si j'aimais beaucoup les Thunderbolts d'Ellis, je trouvais ça quand même un peu bizarre que les gens fassent autant confiance à Osborn.
Moi, la fin de Secret Invasion où Norman Osborn était consacré sauveur de l'humanité, etc. J'avais trouvé ça hyper poussif.
Alors ça, c'est encore pire.
Je ne voyais pas comment, même en le voyant tuer 2-3 Skrulls à la télé, les gens pouvaient être aussi crétins, quoi.
Surtout que la scène, on fait une parenthèse, mais la scène de fin de Secret Invasion n'a pas beaucoup de sens, puisque tous les héros sont en train de blaster, griffer, déchiqueter, attaquer la reine.
Oui, pourquoi prendrait-on Norman Osborn en exemple plus que les autres, quoi?
Bah, c'est lui qui tire la balle, qui achève, mais j'ai envie de dire... Elle se prend des blasters et des griffes d'adamantium de Wolverine dans la gueule. Pourquoi c'est la pauvre balle tirée par Osborn qui l'a tué?
J'ai envie de te dire, demain, l'exemple est mauvais, mais c'est le seul tueur en série qui me vient à l'esprit. Demain, il y a une invasion extraterrestre et c'est Charles Manson qui tue le chef de l'armée extraterrestre. C'est pas pour ça qu'on va le nommer président, quoi.
Non, surtout qu'en plus, il faisait partie de la mêlée finale qui a tué la reine, tu vois. Donc sans les efforts des autres, il aurait même pas pu la buter.
Je dis Charles Manson, mais je sais même pas s'il est encore en vie.
Non, il est mort il y a pas longtemps.
Ah, c'était, ouais, c'était en plus il y a pas longtemps, d'accord.
D'ailleurs, Bill Sienkiewicz a fait une blague, lui qui fait toujours des portraits quand des gens célèbres, notamment liés à l'art, meurent. Il avait mis Charles Manson, non, je ne ferai pas de portrait.
Alors, est-ce que c'est du coup ton arc préféré jusque-là?
Ah, largement.
Ah, d'accord, ok, d'accord. Comme ça, c'est clair.
Bah, on sent de la motivation. Je pense que
Oui.
Slott, là, il est motivé. Avant, il créait ou il jouait avec des créations qui ne l'inspiraient pas trop. Et en fait, Slott, il le dit lui-même, il est très grand fan de Spider-Man, clairement. Même si, évidemment, quand tu écris un tel titre, t'es tenté de créer tes propres personnages, t'as quand même envie de jouer avec les gros trucs, quoi. Là, il a quand même Osborn et deux Venom pour le prix d'un. Il va pas se priver. Il y va à fond les ballons.
Alors le 573 s'est classé en 8e et a vendu 82 000 et quelques exemplaires. Ce qui est mieux que d'ordinaire, puisque c'était plus aux alentours de 70 000 exemplaires.
Ouais.
Mais c'est pas non plus ouf, quoi. Il a perdu 10 000 entre le
Ouais.
premier et la première partie et la dernière partie de l'arc, quoi.
Ouais, bon, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Autre aspect que j'ai bien aimé, on a Ben Urich et Robertson qui essaient de créer leur journal à côté
C'est vrai qu'il y a
aussi.
cette intrigue, ouais.
Ouais, il y a cette intrigue-là que j'ai bien aimé aussi. Moi, tout ce côté journalistique, ce côté bataille de l'éthique journalistique et compagnie, ça me plaît beaucoup. Là, Slott semble avoir un peu des idées là-dessus aussi. Donc voilà, un arc riche.
Ouais, d'ailleurs, ça va se poursuivre pendant un moment, hein, cette histoire de DB et de. Voilà.
Bah écoute, tant mieux.
Et aussi, on a à la fin de l'arc une espèce d'intrigue avec Lily Hollister, donc la copine de Harry Osborn, qui embrasse Peter Parker quand même.
Oui, alors on a tout ce truc de Lily qui d'un coup Peter la trouve attirante et Lily le drague mais ouvertement devant Harry.
Ouais, alors ça, j'ai trouvé ça très très bizarre, quoi. Même en le relisant, je me suis dit, ben, quand même, enfin.
C'était qui avait fait cette scène sur le toit? C'était Slott ou c'était quelqu'un d'autre là, la scène sur le toit où Harry débarque et fait ça va, je vous dérange?
Ben, c'est dans quel arc?
Je crois que c'était un arc avant. En tout cas, voilà. C'est très bizarre, hein, le côté triangle amoureux Lily, Harry, Peter. C'est chelou.
C'était peut-être l'arc avec Pepperdall, je sais pas. Dans ce cas-là, c'était peut-être Slott aussi. Parce que
Peut-être.
je me rappelle qu'on voyait Harry Osborn dans cet arc.
Peut-être.
Alors que dans les autres, je suis pas certain.
Bon, en tout cas, c'est bizarre.
Il y a Anguille sous roche. On passe au numéro suivant, qui est, je crois, le dernier numéro que t'as lu.
Alors, donc, on a ensuite dans le 574 un épisode écrit par Guggenheim et dessiné par Barry Kitson qui, bah, d'un seul coup, quand on lui donne un bon scénario à dessiner, retrouve son mojo.
Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux.
Ouais, c'est vraiment, c'est bien, enfin, c'est propre. C'est pas la plus grande œuvre de Kitson, mais
Ouais.
c'est plutôt sympa. Et c'est le retour tant attendu, alors tant attendu, je sais pas,
Oh
mais
bah si, quand même.
le retour de Flash Thompson qui était retourné à la guerre et qui est hospitalisé. Un général vient lui parler parce que Flash va avoir une médaille et Flash lui parle un peu de sa vie, de ses aspirations, de son admiration pour Spider-Man. Et on a le twist final qu'on peut révéler.
Ouais, y a largement prescription, et puis en plus, on va être
Oui.
obligé de l'adresser un jour ou l'autre.
Et puis ce sera important dans tout le développement de Flash Thompson pour les 10 années suivantes. C'est que ben, Flash va être décoré parce que il a perdu ses jambes en sauvant un camarade soldat à la guerre.
Alors, c'est un épisode essentiellement hommage justement au courage des soldats et puis de Spider-Man, quoi, qui est un exemple pour Flash Thompson depuis bien longtemps.
Oui.
L'épisode est bien écrit, mais moi j'avais pas aimé cette fin, dans la mesure où, au début de Brand New Day, ils te réintroduisent Harry Osborn, l'air de dire, bah voilà, il faut bien que Peter Parker récupère son meilleur pote. Alors que franchement, Harry, c'était pas la peine de le ressusciter. Je veux dire, surtout que la mort d'Harry Osborn est l'un des meilleurs épisodes de Spider-Man. Donc ça m'avait agacé qu'il ramène Harry Osborn, et je m'étais fait cette réflexion, s'ils veulent vraiment utiliser un ancien pote de Peter Parker, autant qu'ils nous ramènent Flash. Et là, ils ramènent Flash, mais justement pour l'estropier, quoi. Et alors, je m'étais fait cette réflexion, je m'étais dit, ok, d'accord, vous faites ça, mais j'espère au moins qu'ensuite vous allez continuer à utiliser le personnage, quoi. Parce que c'est pas juste pour faire une fin un peu choquante, un peu mémorable à cet épisode. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, il y aura quelques auteurs qui vont nous remontrer ce qui se passe avec Flash Thompson, mais surtout dans des backups.
Ouais.
Mais finalement, durant Brand New Day, Flash Thompson, il sera quasiment jamais là, quoi. Quasiment invisible.
De toute façon, c'est le grand absent du run de Slott qui commence ensuite après Brand New Day.
Ce qui est vraiment dommage, parce qu'il y avait vraiment des choses à faire avec Flash Thompson. Alors on le sait tous aussi, hein, c'est pas un spoiler, il deviendra l'agent Venom. Donc Donc ça, c'est une très bonne idée, par exemple.
Justement, il est très occupé à côté. Alors là, pour le coup, par contre, ça te dérangeait pas, ça, Flash Thompson qui lui avait nommé.
Ah non, je trouve que c'est une très bonne idée, ça, par contre. C'est pas un super vilain, il avait pas d'identité secrète, déjà, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est pas comme le Scorpion, quoi.
Ouais.
Au contraire, je trouve que c'était vraiment une très bonne idée. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était une idée que j'avais lue sur un forum des années avant, à l'époque où même Flash Thompson n'avait pas perdu ses jambes, mais était, tu sais, sur un siège roulant après un accident de voiture. Parce qu'il en a bouffé, hein, Flash Thompson, avec les années. Et il y avait quelqu'un qui disait « Tiens, ce serait cool, finalement, qu'il hérite du symbiote pour pouvoir remarcher à nouveau. »
Ouais.
C'était un forum américain très fréquenté, je sais pas si Slott a eu cette idée en traînant par hasard là-dessus, et s'est dit « Tiens, putain, c'est une bonne idée, je garde ça en mémoire. » Ça peut être aussi le hasard, hein, de toute façon, c'est une...
Oui. Mais en même temps, je trouve que Flash Thompson, il a en fait l'attitude d'un candidat idéal pour Venom. C'est quand même quelqu'un d'un peu arrogant, qui a eu un passé tumultueux, qui a des choses à se faire pardonner. Et en même temps, c'est un soldat, il n'hésite pas à rentrer dans le tas. Enfin, tu vois, je trouve que de l'entourage de Peter, c'était peut-être le meilleur candidat.
Est-ce que t'as lu les épisodes de Venom? Oui, tu les as lus, où il repart chez lui, là, les épisodes récents de Donny Cates, où Eddie Brock repart chez lui.
Oui, je les ai lus, oui.
Eh bien, si un jour t'as l'occasion de lire les épisodes de Spectacular Spider-Man par J.M.D. Matteis après la saga du clone, J.M.D. Matteis réutilise donc Flash Thompson, et il y a quasiment la même histoire à la même situation, avec Flash Thompson qui repart voir son père qui est alcoolique, qui va un petit peu régler ses comptes avec son père. Et c'est là où tu vois que Eddie Brock et Flash Thompson, c'est effectivement des personnages très très semblables et très très similaires.
On a d'ailleurs des flashbacks ici du père de Flash qui le maltraitait. On a aussi une case qui nous apprend pourquoi il est appelé Flash, qui peut prêter à sourire, mais en même temps...
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça, oui.
Mais en même temps, ça rajoute au perso, en gros, le mec grande gueule, mais...
Ça le rend sympathique.
Oui, ça le rend sympathique. Finalement, voilà, le mec grande gueule qui terrorisait Peter au lycée, bah, ça restait déjà quelqu'un de malheureux dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale. Et en plus, auprès des filles, bah, finalement, dans l'intimité, il assurait pas tellement que ça.
Voilà.
Et par contre, Eddie Brock, le fait que son père était quelqu'un qui le maltraitait, c'est quelque chose que Donny Cates a inventé ou non, c'est bien plus vieux que ça?
Il me semble que c'est plus vieux que ça, qu'on a déjà dû avoir des histoires sur le passé de... d'Eddie Brock, parce qu'avec toutes les mini-séries durant les années 90 qu'il y a eu autour de Venom, à mon avis, il y en a bien une quand même qui a dû toucher au passé d'Eddie Brock. Bon, après, le problème, c'est que quand tu regardes les origin stories de tous les gens un peu perturbés, ils ont toujours un père qui les maltraite, quoi.
Oui, c'est toujours ça, en fait, c'est un grand classique. Hein.
Octopus, c'est la même chose. Bon, enfin bref. Voilà, quoi.
Même Hulk, c'est aussi ça.
Oui, il pourrait faire un club.
Ouais, je pense, ouais. En tout cas, très bon épisode, très très sympa. Enfin, sympa... C'est pas rigolo, mais vraiment, Guggenheim inspiré, c'est là où je me dis que Guggenheim, c'est quand même... C'est pas un grand auteur, mais de temps en temps, il peut viser juste.
Bah là, typiquement, c'est le genre d'histoire, tu sais, à la... le garçon qui collectionnait Spider-Man, tu sais, le... Voilà.
Oui, voilà.
Ouais. Avec... ouais, c'est surtout...
On
c'est
est
surtout...
dans cette veine-là, oui.
En fait, c'est bien en tant que one-shot, mais comme là, ça touche à Flash Thompson, qui est quand même... avec Harry Osborn, l'un des personnages essentiels autour de Peter Parker, enfin en tant qu'ami hein, masculin, on va dire, j'aurais aimé que il ne le lâche pas après ça, quoi. Tu vois, que la plupart des auteurs lâchent totalement le personnage, parce que c'est sûr que durant tout Brand New Day, ben on le voit quasiment pas, quoi.
Peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne idée, comme à côté de ça, en tant qu'agent Venom, il vivait vraiment des aventures à part et tout, peut-être qu'il n'était pas vraiment dispo, enfin...
Enfin, agent Venom, ça arrive que longtemps après, hein. Brand New Day est terminé, je crois.
Oui, enfin, agent Venom, c'est genre 2009-2010, hein. On n'est pas très très longtemps après ça. Hein.
Oui, ça c'est quand même quelques années, quoi.
Oui, enfin, un ou deux ans, hein. C'est...
Attends, parce que Brand New Day se termine en 2011, je crois. 2010, peut-être fin 2010.
À ce moment-là, Venom est déjà lancé.
On vérifiera, ouais. De toute façon, on verra forcément l'histoire où il y a l'introduction d'agent Venom.
On verra ça, on y arrivera. On verra ça qu'on y arrivera. Juste avant de passer à l'annual, on a oublié, mais à la fin du 573, Mark Waid fait un autre backup, mais qui est assez oubliable. C'est Stéphane Colbert qui, à l'époque, veut être candidat à l'élection présidentielle. Enfin, c'est dispensable, quoi. Je le mentionne juste.
Oui.
Et J'aimerais mentionner autre chose, juste avant cet annual qui est dédié à Jackpot, si vous êtes vraiment complétiste et que vous voulez lire la mini-série en trois parties écrite par Brian Reed sur Secret Invasion, qui s'appelle Spider-Man Secret Invasion, mais qui en fait bah, ne présente presque pas Spider-Man, mais en avant Jackpot et puis bah, Ruby, Dexter Bennett et Betty Brant. Donc c'est en trois épisodes, et je ne l'ai pas dit, c'est dessiné par Marco Santucci.
Il y a Menace aussi.
Oui, il y a Menace dedans, et en fait c'est sympathique mais dispensable. Mais si vous voulez vraiment le lire, ben déjà, ça se place juste avant cet annual. C'est totalement dispensable, hein, vraiment, ça n'apporte rien, que ce soit à Brand New Day ou à Secret Invasion. Et c'est un scénariste, donc Brian Reed, qui n'est pas dans le pool des scénaristes. Mais on voit qu'il allait consulter les scénaristes, quoi. Par rapport à Jackpot ou par rapport à Menace, ça s'inscrit dans leur arc, mais ça ne sert à rien. Ça se laisse lire, c'est pas désagréable, mais c'est très facilement oubliable.
Ok, on va passer, alors, ce numéro annual, ce premier annual de la période Brand New Day,
ouais.
Qui va lever le voile déjà sur l'un des mystères de Brand New Day.
Déjà ou enfin.
Ou enfin, ouais. Mais il y a bien d'autres mystères, hein, dus au nouveau statu quo, par exemple, comment Harry est revenu, ça on va le savoir dans quelques mois. Comment ça se fait que personne se souvient de qui est Peter Parker?
Bah, aussi... Tu sais quoi? Je te propose qu'on fasse l'annual et qu'on fasse le listing de tous les mystères ensuite.
Oh bah, de toute façon, il n'y en a pas 36. Il y a ces deux-là et puis... Enfin, voilà, quoi.
Et puis, bah, quand même, le résultat des élections,
oui.
Voyons.
Et ça, c'est pas un mystère. C'est une storyline.
Non, c'est pas un mystère. Et il y a le tueur au Spider Tracer.
Oui.
Ça, c'est pas encore résolu.
Ouais. D'ailleurs, c'est pas du spoil, hein, mais dans le même arc vont être résolus l'intrigue des élections et tueur au traceur.
Ah, bon, bah.
Sans que ce soit forcément lié, hein, d'ailleurs.
Deux pour le prix d'un.
Voilà, justement. C'est pour ça que je peux me permettre de te le dire, parce que tu vas me dire « Ah ouais, mais du coup, tu me spoiles le fait que c'est lié, etc. » Non, non, pas du tout. Ou pas forcément.
Je te préviens, si ça m'a gâché la lecture, les auditeurs en sont témoins, je t'en voudrais.
Ah, pas du tout. Alors là, ça n'a aucun intérêt de savoir que c'est dans le même arc, quoi.
De toute façon, ça n'a aucun intérêt tout court comme intrigue, donc.
J'ai envie de te dire, le tueur au traceur, c'est peut-être quand même bien plus intriguant, sans difficulté,
oui.
Que cette histoire d'élection.
Oui, on fera le bilan quand on y arrivera.
Ah, puis on saura aussi, tiens, encore un spoiler dans ta poire,
oh.
On saura qui est Menace aussi du même coup.
Ah, mais je le sais déjà.
Oui, d'accord, bah écoute, ça tu peux pas m'accuser, hein, c'est pas de ma faute.
Alors, cet annual.
Oui, alors, de Mark Guggenheim, encore lui. Alors, on a eu le meilleur, peut-être, de Mark Guggenheim avec l'épisode One Shot sur Flash. Autant là, pour moi, c'est... Je crois que t'as un avis un peu différent, d'ailleurs. T'as bien aimé cet annual.
Oui, moi, je suis plus nuancé que toi, oui.
Moi, pas du tout. Donc, ça révèle qui est Jackpot. Donc, Marty, explique-nous qui est Jackpot.
Alors, Jackpot, faut savoir qu'il y avait eu une blague qui concernait Flash Thompson, justement. Alors, je sais plus si c'était Guggenheim ou pas qui l'avait écrit ça, mais Spider-Man demandait son vrai nom à Jackpot. Jackpot lui a dit « Je m'appelle Sarah Errett ». Et du coup, Spider-Man lui a dit « Moi, je m'appelle Flash Thompson ». Oh, 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 que c'est drôle.
Si ça devait être dans le premier arc avec Jackpot de Guggenheim, ouais.
Peut-être, ouais. Alors, comme quoi Guggenheim avait tous ses persos en tête. Et Spider-Man enquête. Il se rend chez cette fameuse Sarah Errett, qui est une brune aux cheveux courts, et qui lui dit « Non, 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 c'est pas moi Jackpot ». Et donc, il part. Et là, je crois que c'est là où elle appelle la vraie Jackpot pour lui dire « Il faut qu'on parle. Il y a quelque chose qui va pas, là ». Et dans cet arc, qui est un team-up entre Spider-Man et Jackpot, on va donc découvrir quel est le lien mystérieux entre ces deux jeunes femmes et quelle est l'identité de Jackpot. Spider-Man donc découvre que Jackpot n'a pas de pouvoir, mais se drogue pour en avoir. Et surtout, c'est là où les choses deviennent un peu tordues. En fait, Sarah Errett est la vraie Jackpot qui a été entraînée par les autorités qui gèrent la licence de super-héros. Mais finalement, elle ne voulait plus être une super-héroïne. Alors, je sais plus, mais elle a eu des super-pouvoirs, une super-force ou je sais plus quoi.
Grâce à l'hormone de croissance mutante, là, je crois.
Ça, c'est la fausse Jackpot, la vraie Jackpot. La première, je sais plus comment elle a eu ses pouvoirs, mais bref. Finalement, elle ne veut plus être une super-héroïne. Et la deuxième Jackpot qui rêve d'être une super-héroïne, qui rêve, je cite, de toucher le Jackpot,
oui.
C'est comme ça qu'elle surnomme le fait de subir un accident qui donne des pouvoirs, bah, négocie avec Sarah, lui achète l'identité de Jackpot et prend donc des hormones mutantes et je sais plus quoi d'autre pour devenir super forte.
Moi je vais te dire trois raisons pour lesquelles je trouve ça totalement con et totalement pourri. La première, c'est que Jackpot... Finalement, on se fiche pas mal que ce soit ou non Sarah Errett, puisque de base, on ne sait pas qui c'est Sarah Errett. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Si la révélation cachait que, en fait, c'est pas, je sais pas, un personnage qu'on t'a introduit même récemment, que c'est pas Lily Hollister, mais que c'est au fait Sarah Errett, ou le contraire, ça aurait pu avoir un intérêt. Mais Sarah Errett de base, c'est un personnage que tu ne connais pas. Donc à quoi ça sert de te faire la révélation que c'était elle la première et qu'il y en a une autre? Tu t'en fous. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui, et surtout ce qui est ridicule, ce qu'on n'a pas encore dit.
Attends, juste que j'oublie pas mes trois arguments. Tu viens de dire qu'elle s'appelle Jackpot parce qu'elle dit je veux toucher le jackpot. Mais non, elle prend le pseudo de la précédente. Donc de toute façon, cette explication ne tient pas debout. En plus de tout ça, ça c'est le truc le plus con. C'est là où on voit bien que c'est éditorialement simplement une carotte pour que les fans se disent ah, c'est peut-être Mary Jane, je vais donc aller lire ça. C'est qu'elle ressemble, quand elle est en costume, énormément à Mary Jane. Comme par hasard, elle s'appelle Jackpot, et comme par hasard, l'une des phrases fétiches de Mary Jane, c'était Face it, Tiger, you just hit the jackpot. Et voilà, et j'ai envie de te dire, comme par hasard, il y avait une chance sur 1 milliard de possibilités qu'elle choisisse ce nom et qu'elle ressemble à Mary Jane. Il n'y a pas d'explication à ça, tu vois, c'est juste l'explication, c'est juste l'éditorial qui se fout de la gueule du monde, qui ont juste posé ça au début de Brand New Day, pour que les lecteurs qui avaient juré de ne plus jamais lire Spider-Man se disent « Ah, j'aime bien Mary Jane, c'est peut-être Mary Jane, je vais quand même aller lire ça, quoi. » C'était la grosse carotte.
Ouais, et puis surtout, ce qu'on n'a pas encore révélé, c'est que finalement, on découvre donc que Jackpot n'est pas Sarah Errett, mais une certaine Alana Jobson, un perso dont on n'a jamais entendu parler. C'est pas comme si c'était quelqu'un de lié peut-être à un des nouveaux persos, non?
Oui.
On sait pas, c'est quelqu'un, bon bref, voilà.
Bah, c'est ce que je te disais au début. À quoi ça sert de te faire une révélation avec deux personnes quand tu ne connais ni l'une ni l'autre? Il n'y avait même pas besoin de faire cette histoire de jackpot. On aurait pu te dire au début que, au fait, c'est bien Sarah Errett, elle a juste raconté un mytho à Spider-Man, elle lui a dit non, c'est pas moi alors que c'est elle, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Et puis en plus, ses pouvoirs, c'est quoi? C'est super force, ok. Il n'y a même pas une histoire de jackpot, elle a un pouvoir sur la chance ou les probas ou un truc comme ça.
Bah oui, ça aurait pu être une anti-Black Cat, comme ils aiment bien les anti-Venom et compagnie.
C'est vrai que sur le coup, on peut se dire ça, comme Black Cat, c'est le chat noir, celle qui portait la poisse à Spider-Man, un perso qui porte la chance, ils auraient peut-être pu partir sur cette veine-là.
Comme Domino.
Oui, voilà, par exemple, ouais.
Le problème, c'est que tout a déjà été fait, mais en plus, franchement, elle crève, mais comme une merde.
On l'a pas dit ça qu'elle mourait, on l'avait pas encore dit,
non.
Je crois.
Non, mais je le dis, elle meurt, mais vraiment comme une merde. C'est-à-dire que c'est ça le plus drôle. Tu trouves même pas ça pathétique, tu trouves ça ridicule, quoi, quand tu lis ça. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe, tu vois. C'est je fais une overdose.
Ouais, voilà, elle fait une overdose. Alors, Spider-Man ramène le corps à Mister Fantastic qui l'analyse. Et là, je me dis, mais alors, attends, il y a un perso, que ce soit Sarah ou Alana Jackson, en tout cas, c'est un perso qui est censé être enregistré chez les autorités et tout. Et le corps, il devient quoi? Il va pas avoir des ennuis, Monsieur Fantastic, quoi? Il va rendre le corps aux autorités?
Mais c'est ce que je t'ai dit, en plus, à cette époque, Marvel était passé à autre chose. On avait eu Secret Invasion, etc. Donc du coup, toutes les retombées de Civil War, la loi de recensement, etc., c'était passé aux oubliettes.
Dans les titres, ça continue, vu que c'est maintenant Osborn, le Big Boss. Les Avengers sont encore en cavale, enfin les New Avengers, ça continue encore.
Oui, non, mais je veux dire, on te parle plus du fait que Spider-Man est traqué parce qu'il n'est pas recensé. Oui. On te dit qu'il est traqué parce qu'il y a l'histoire du tueur au traceur, mais c'est tout. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai, quoi, on n'a pas oublié ça, ouais.
Forcément, ils vont pas tout abandonner avec Norman Osborn et Thunderbolts. Mais si tu veux, loi de recensement ou pas, les Avengers et les Thunderbolts seraient de toute façon affrontés.
Oui.
Enfin voilà, c'est le cours des choses, quoi, j'ai envie de te dire. Mais en ce qui concerne ce personnage, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, cette histoire. Moi, j'ai trouvé ça, j'avais trouvé ça ridicule. Et en le relisant, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est encore pire que dans mon souvenir.
Et à la fin, on a Spider-Man qui va faire la leçon à Sarah Errett en lui disant, oui, t'as un pouvoir, c'est ta responsabilité. Et là, je me dis, mais Spider-Man, si tu le sens pas d'être un super-héros, ne le sois pas. Lui, il repense donc à l'oncle Ben. Et c'est vrai que quelque part, il y a un parallèle qui peut être fait. Sarah, finalement, a laissé Jackpot prendre son identité. Mais c'est pas tout à fait la même chose que l'oncle Ben, puisque elle n'a pas forcé Jackpot à devenir une super-héroïne.
Puis comment ça fonctionne, cette histoire? Parce que légalement, comment elle peut filer son identité à quelqu'un d'autre? Donc le gouvernement ne saura pas que Jackpot est morte, puisqu'il pense que c'est Sarah Errett. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Ou alors, le corps de Alana Jobson, Mister Fantastic, il va pas le garder au frigo, faut bien qu'il en fasse quelque chose.
Peut-être que ça l'intéresse d'avoir des corps de jeunes filles dans son labo, surtout quand elles sont mortes. C'est un grand psychopathe. Ça n'a aucun sens, de toute façon.
Oui. Et puis surtout, on n'a pas répondu à cette question primordiale dans l'annual. Pourquoi ce personnage a un costume avec des pattes d'eph? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais le costume de Jackpot, quand même, il est un peu kitsch, quoi.
Moi, j'ai pensé au début que ça renvoyait justement aux années 60, le côté Mary Jane, Jackpot, enfin voilà quoi.
Ouais.
Que ça allait être un personnage un peu orienté 60s.
Je pense, ouais.
Bon, en fait, pas du tout.
Je sais pas, ouais. C'est bizarre. Tu disais aux auditeurs que moi j'avais bien aimé, en fait, oui, il y a des choses que j'ai bien aimées. En soi, cette histoire de double identité, machin, même si c'est très mal fait, ça aurait pu être pas mal. Et justement, ça ouvre des portes avec la loi de recensement des super-héros. Est-ce que Sarah et Rhett n'auraient pas des problèmes ou pas ensuite? Enfin, il y a des portes ouvertes qui seront sans doute jamais fermées ou tout simplement qui seront jamais vraiment ouvertes. Et aussi, toute la partie où Spider-Man est avec Jackpot, enfin Alana, quoi, trouvait que l'alchimie entre eux fonctionnait. Le côté personnage tellement, tellement désireuse de devenir une super-héroïne qu'elle s'en bousille la santé et puis qu'elle achète l'identité de quelqu'un recensé par le gouvernement. Ça, j'adhérais. Cette idée-là, j'y adhérais, quoi.
Bon, c'était très maltraité, quoi.
C'est maltraité. En fait, j'adhère à l'idée, j'adore au ton. Je trouvais l'atmosphère, en général, de l'annual, ça fonctionnait. Mais pris à part, il y a plein de points comme ça qui sont un peu débiles.
Et puis alors, il y a aussi Mark Guggenheim qui, comme de nombreux auteurs, réutilise des méchants qu'il a créés lui-même. Il avait créé durant Civil War un personnage qui avait été buté par Wolverine. Et alors là, c'est pareil, on te dit que c'est ce personnage-là, mais on ne comprend pas comment il a pu revenir, comment il a pu ressusciter d'un truc pareil. Parce que Wolverine, il avait carrément transpercé le crâne avec ses griffes d'adamantium.
Ouais.
Et là, le mec est vivant. Alors c'est quoi? C'est un clone? C'est... Enfin...
Non, il le dit que finalement, en fait, Wolverine lui a juste percé l'œil et que ça allait.
Non, non,
et qu'il a des implants sur le supernatique.
En plus, on voit l'image. On voit l'image avec tout qui... Tout... Enfin, voilà. C'est...
Alors je me demande s'il n'y a pas une intrigue qui n'a jamais été développée là derrière.
Oui, peut-être.
Ce serait pas étonnant.
Peut-être, peut-être.
Par contre, c'est pas un perso forcément créé par Guggenheim. Il était beaucoup plus vieux que ça, il me semble. Alors c'est Guggenheim qui les réutilise, ouais. Je vais te dire ça tout de suite, je suis en train de vérifier. Sur le coup, ce personnage, je me rappelais plus que c'était lui qui apparaissait.
Declan quelque chose, non?
Oui, c'est ça, Walter Declan, The Mogul, ou Le Mania en français. Et c'est un personnage, en fait... Ah non, t'as raison, c'est bien Guggenheim qui l'a créé, je dis des bêtises.
Voilà, dans Endurance Civil War, Wolverine. Moi, j'avais bien aimé cet arc-là dans Wolverine, à l'époque.
Il était pas trop mal, c'était assez marrant. Bon, on fait encore une parenthèse, mais dans Civil War, il y a deux choses qui me faisaient marrer. C'est que quand même, au début, deux persos très importants, c'est Speedball et Nitro, que Millar évacue totalement. Et donc, Nitro, lui, son sort est réglé dans le tie-in de Wolverine.
Oui, c'est vrai, oui, c'est ça, ouais. C'était dans cet arc-là.
Dans Civil War, ce qui est appréciable, c'est que t'as vraiment des tie-in qui complètent l'histoire principale. Ça vaut vraiment le coup de lire les tie-in.
Oui, et t'en as qui le complètent absolument pas.
T'en as qui le complètent pas, mais par rapport à d'autres événements qu'on a eu ensuite, t'as vraiment des tie-in de 1 qui complètent vraiment l'événement, et de 2 qui sont bien écrits.
Est-ce qu'on avait d'autres numéros desquels parler? Parce qu'il y avait aussi quelques Spider-Man extra, je crois.
À ce niveau-là, si on suit la chronologie de ce qui est publié dans le magazine de Panini, il y a le premier extra sur Hammerhead qui a été publié.
Oui.
Mais on en parlera peut-être dans l'arc sur Hammerhead.
Oui, oui, ce sera plus simple.
Par contre, si tu veux, je vais peut-être faire un petit point où retrouver ces épisodes.
Si tu veux, oui, vas-y.
Ah oui, je veux, j'aime bien, oui. Donc, plus sérieusement, donc, ces épisodes sont sortis chez Panini dans le mensuel Spider-Man, que pour le retrouver, il y a le marché de l'occasion, il n'y a rien d'autre. Mais sinon, Panini, depuis quelques années, depuis 2012, a commencé à ressortir la période Brand New Day en deluxe, mais à un rythme d'escargot, c'est un ou deux numéros par an. Un point d'ailleurs assez bizarre, parce qu'ils n'ont toujours pas terminé, je crois qu'ils ne sont pas encore arrivés, ou à peine arrivés à la période The Gauntlet. Et là, ils ont déjà commencé la période Big Time où c'est Dan Slott tout seul. Et il manque, je sais plus, je crois, deux ou trois deluxe entre, quoi. Toujours est-il que les épisodes dont on a parlé aujourd'hui, vous les retrouverez dans les trois premiers deluxe. New Ways to Die, en fait, initie le troisième deluxe. Et pour ce qui est de la VO, tout ça était évidemment sorti à l'époque en trade paperback. Mais depuis, je crois que c'est en 2018 qu'ils ont commencé ça, Marvel a commencé à ressortir toute la période Brand New Day dans ce qu'ils appellent The Complete Collection, en 4 volumes. Et ce dont vous a parlé aujourd'hui, en gros, ça correspond aux deux premiers volumes. Cette collection, elle est plus intéressante, je trouve, que les TPB, ou même plus intéressante que les Deluxe, parce qu'ils y ajoutent les à-côtés qui rentrent dans Brand New Day. Par exemple, la mini-série Secret Invasion elle est dans le deuxième Complete Collection. Par la suite, ils mettent les extras, ils mettent les autres mini-séries, ce que fait pas forcément Panini dans les Deluxe.
En VF, pour les versions les plus complètes, ça reste les kiosques.
Ouais, les kiosques où on retrouve aussi... Ben, alors avant, je te parlais... En tout début d'émission, je te parlais de Spider-Man Unlimited, tu me disais que c'était plus vieux. Mais en fait, Spider-Man Unlimited, pardon, il y avait eu un volume dans les années 2000 qui s'était arrêté en fait en 2006, un an avant Brand New Day, et qui avait été remplacé par Spider-Man Family, qui ensuite avait été remplacé par Amazing Spider-Man Family. Donc en fait, il y avait bien un deuxième titre en même temps que Brand New Day, mais... Enfin, que Amazing, mais bon, c'est vraiment de l'anthologie.
Ouais, c'est pas forcément canon et c'est pas forcément important, quoi.
Non, mais pourquoi j'en parle quand même? Je crois que ça s'arrête, alors Amazing Spider-Man Family s'arrête je crois au 8, et les 6, 7, 8 sont en fait canon, mais c'est vraiment des récits annexes, dont on s'en fiche, on vous en parlera pas, hein, mais juste comme ça, pour être complétiste, si vraiment vous voulez, bah, y a ces épisodes-là, qui sont aussi pour certains dans les Complete Collection.
Ok, je crois qu'on peut conclure pour ce premier numéro.
Ouais.
J'espère que ça vous a plu, hein, surtout.
Bien sûr, ouais. On est en rodage, hein. Si vous sentez que dans l'émission on hésite un petit peu, on tâtonne, c'est normal, c'est vraiment la première
émission.
Bon,
ce sera toujours comme ça, hein.
Ce sera toujours comme ça, mais on cherche un petit peu le ton quand même en même temps. Voilà. Est-ce que dans les prochaines, on sera autant descriptif ou on verra.
Oh, je trouve qu'on était bien par rapport à ce dont on a parlé.
On est bien par rapport à d'habitude.
Non, mais on pouvait pas en dire plus. Enfin, on fallait pas en dire plus, mais on pouvait pas non plus en dire moins, quoi. C'est ça que je veux dire.
Oui, voilà. Puis même si on a spoilé, bah, on vous a pas non plus raconté tous les détails.
Ah non,
ni,
non, pas du tout. Non. Voilà. On vous a pas tout dit. Et bon, enfin voilà, quoi. Il y a rien de mieux que de lire les épisodes, quoi. C'est pas juste en entendant parler.
Par contre, n'hésitez pas dans les commentaires sur le site ou sur les réseaux sociaux à nous partager votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout avec nous? Allez-y, vous savez, on adore débattre avec vous.
Et si vous avez des idées de run que vous voulez voir traitées dans cette émission, vous pouvez nous les soumettre. Ça ne veut pas dire qu'on les fera. Mais néanmoins, ça peut nous donner des idées de pistes, et éventuellement, quoi. Éventuellement.
Bien sûr.
Je veux dire, c'est... De toute façon, ça va dépendre de si on a aussi les histoires, si on a le temps et si on peut les relire, quoi. Ça va dépendre de pas mal de choses.
Oui. En gros, on est un peu à la moitié, si on veut, de Brand New Day.
Ah bah la moitié, c'est plus vers le numéro 600.
Oui, plutôt, oui.
Parce qu'après, t'en as quasiment une cinquantaine, quand même.
Bah, je me base sur les Complete Collection, en fait.
Mais enfin, de toute façon, voilà, on se retrouve pour un prochain numéro de Comics Run avec la suite de Brand New Day. Et puis, vraisemblablement, bah, on en fera d'autres des Comics Run, sur d'autres runs, d'autres époques, sans doute, d'autres auteurs, enfin, voilà.
Oui, pas forcément que du Marvel. Hein.
Exactement, pas forcément que du Marvel, pas forcément que du Spider-Man, il y aura de tout, selon l'envie du moment, quoi.
Bien sûr. D'ailleurs, le Comics Run, on l'a, je crois, dans les cartons depuis le début du lancement du site. Hein.
Ouais. Alors, je pensais vraiment pas te dire qu'on allait commencer par Brand New Day, puisque c'est pas ma période préférée sur Spider-Man, mais je sais pas pourquoi, je m'étais dit, tiens, moi qui ai pas tellement apprécié cette période, est-ce que finalement... Je lui redonnerai pas une seconde chance en la lisant d'un bloc, en la relisant d'un bloc. On voit ce que ça donne, quoi.
J'y trouve quand même des qualités, au moins dans les attentions. Là, ce qu'on peut dire, si on peut dresser en quelques instants un petit bilan, même si c'est franchement raté sur plein de points, j'apprécie quand même la volonté de relancer un peu la machine.
Alors, j'ai envie de te dire, bonne nouvelle, d'ici le 600, ça va monter crescendo. Je trouve que la qualité, globalement, ça s'améliore. Ça s'améliore. Il y a quand même des meilleures intrigues et puis des meilleures choses ensuite.
D'accord. Parce que cette idée de on arrête d'avoir trois titres par mois qui souvent d'ailleurs sont un peu compliqués à concilier dans la continuité, on en fait un seul mais avec des équipes tournantes et tout, pourquoi pas? Enfin, c'était à tester, hein, vraiment. Fallait le tester, fallait quand même le faire. Cette idée de lancer plein de sous-intrigues différentes et de natures différentes, de longueurs différentes qui sont liées ou pas, qui se rejoignent de manière fortuite ou pas, bah pourquoi pas, oui, c'est juste que bah, le choix des intrigues ou le choix des personnages est pas terrible. Ils auraient peut-être dû un peu ménager la chèvre et le chou, faire moite-moite ancien perso, ancien vilain, nouveau vilain. Parce que là, vraiment, on le voit bah, au début de New Ways to Die, je le disais avant, il y a une page récap, il y a tous les nouveaux vilains qui sont présentés, et à part Mister Négative, il n'y en a aucun dans le tas qui me plaît.
Eh bien, enfin, voilà, on va conclure là-dessus, et on se retrouve très vite pour Brand New Day, deuxième partie,
ouais,
dans Comics Run, et vous retrouvez aussi à peu près régulièrement, on va dire, Jonath et Marty, par exemple, pour des Comics Office Watching, où ils reviennent sur les dernières grosses sorties ciné.
On en a un en projet avec un invité. Alors, on aura du décalage, en fait. En gros, on va peut-être faire Birds of Prey, même si ça fait un petit moment qu'il est sorti. Bon.
Je l'ai pas vu, hein, mais...
De toute façon, voilà, avec la période de confinement et tout, si on peut vous accompagner avec nos voix, alors je sais pas si c'est vraiment un cadeau ou plus une punition de faire ça, mais on va pas vous laisser tomber, allez, on va essayer de se motiver un peu et de dégager le temps qu'il faut pour vous faire cette émission. Et pour ce qui est du Comics Office, le podcast, bon, ça, on verra, vu que l'actualité étant clairement arrêtée du côté des comics.
Ça fait quasiment un an, non, ça fait depuis l'été dernier, je crois, l'été dernier qu'on en a pas fait. L'actualité, elle continuait quand même.
Jusque-là, j'en avais déjà parlé dans d'autres émissions, il y avait plein de choses qui faisaient que tous les trois, on n'arrivait pas à se réunir pour le faire. On était, à chaque fois, l'un d'entre nous était pris. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça.
On se dit que le mieux, ce serait encore de faire sur tel ou tel sujet précis, quoi. Par exemple, le run d'Hickman sur les X-Men actuellement, ce genre de choses, quoi.
Oui, on cherche un peu à renouveler la formule, puis au final, avec Jonath, ça nous fait plus marrer en ce moment de faire les films. Avec Bunny, ça nous fait un peu plus marrer en ce moment de faire les runs, donc on part aussi sur nos envies. Et puis voilà, si on se force pas, l'émission, elle est forcément meilleure.
Et allez à Jecta Est, comme j'avais dit dans un Comics Office.
Exactement.
Je ne sais plus lequel, mais bref, allez, à très vite, portez-vous bien, surtout en ce moment, et puis profitez-en pour lire des comics et puis pour faire ce que vous avez envie de faire de chez vous.
Oui, et puis n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Twitter ou à l'adresse podcast@comicsoffice.com.
Allez, ciao à tous!
Salut tout le monde! Et lisez plein de comics!
Scorpion, tu es le plus nul de tous les nuls du monde!
Mais pourquoi je suis toujours insulté? J'ai horreur qu'on se moque de moi comme ça!